son préféré en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Au coup de fou. 20h30, 22h. Malik Eudy. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat. Retrouvez chaque lundi Malik Eudy et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur mon Paris FM.
Bien le bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur mon Paris FM, vous êtes dans Au bout du foot. Au bout du foot, c'est 1h30 d'émission consacrée uniquement au football avec les mêmes amis ou presque. On va commencer avec notre head chef. Salut Aboubakar, comment ça va?
Salut.
Bien.
Ça va, tranquille en début de semaine.
Week-end sportif, week-end football, j'espère, pour toi?
Moi j'étais au rugby à 7.
Mais pourquoi pas, pourquoi pas?
Du rugby à 7 ce week-end.
Ça s'est bien passé?
Ouais, ça va, c'était cool. Victoire des Barbarians en finale du Super 7. Contre la sélection paloise, mais c'était sympa, agréable.
Également avec nous, Eladj, comment ça va notre chroniqueur foot?
Ça va très bien toi, Malik.
Bah, ça va super bien. Également, Shakenza, comment ça va?
Ouais, ça va bien.
Bon week-end de sport, de foot?
Ouais, le week-end, ouais, je regarde pas mal de matchs, mais après aussi, je suis sorti un peu. En tout cas, le week-end a été agréable dans l'ensemble.
Il n'y a pas que du foot en tous les cas, c'est ça?
Ouais, il n'y a pas que du foot.
Il y a une vie à côté, n'est-ce
oui,
pas?
Y a pas que du
et
foot.
Puis, notre coach Arthur, bienvenue Arthur dans Au bout du foot.
Merci.
La dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors du mondial, hein.
Voilà, c'était le match France-Angleterre qu'on avait gagné 2-1 et c'était la folie dans le studio.
Ouais, tu te rappelles, moi aussi je m'en souviens comme si c'était hier. En tout cas, bienvenue dans Au bout du foot. On va tout de suite et maintenant dérouler le sommaire de ce Au bout du foot de ce lundi 23 octobre 2023 avec le concours de notre réalisateur Jason Lindor. C'est parti.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 23 octobre 2023, malgré la dernière place occupée en championnat, John Textor, le dirigeant américain de l'Olympique Lyonnais, reste confiant. Est-ce une attitude jugée inquiétante? Au bout du foot, donne sa réponse. Olympique de Marseille, le transfert d'Aubameyang à l'OM, coup de maître ou flop annoncé? Au bout du foot se prononce. Également dans Au bout du foot, nous évoquons la fulgurante montée de l'OGC Nice à la deuxième place de la Ligue 1. Le podium est-il à la portée des rouges et noirs? Au bout du foot répond. Plongez également avec nous dans l'effervescence de la Première Ligue avec un suspense plus qu'intéressant. City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Aston Villa séparés par seulement 2 points. Qui sont vos favoris pour le titre en Première Ligue? Nos experts se prononcent. Le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Quels sont les adversaires des clubs français? Quelles sont vos affiches de rêve à l'occasion de cette 3e journée? La CAN 2023 arrive à grands pas. Comment se sont comportées les équipes africaines qualifiées lors de cette trêve des matchs amicaux? Quel bilan peut-on faire? Depuis Abidjan, nous serons en direct avec Magat. Découvrez également dans Au bout du foot la suspension pour dopage de l'Argentin Papu Gomez. Est-ce scandaleux qu'il ait fait partie de l'effectif champion du monde? Au bout du foot se prononce. La chronique, quel choix pour quel résultat? L'attente fébrile autour de l'annonce du Ballon d'Or. Messi est-il sur le point de créer la surprise? La question est posée. Décryptage, analyse, commentaire, pronostic. Bienvenue dans Au bout du foot sur Mon Paris FM, saison 1, épisode 4.
Bienvenue en effet sur Mon Paris FM dans Au bout du foot. Au bout du foot, comme souvent et comme d'habitude, on va démarrer avec notre 30 secondes chrono. 30 secondes pour que chacun de nos chroniqueurs donne un avis, un fait marquant de l'actualité football de la semaine. C'est parti, 30 secondes chrono.
30 secondes chrono.
Aboubakar, on va commencer avec toi, le 30 secondes chrono, c'est parti.
Moi, mon fait marquant, c'est l'Ajax qui est avant-dernier de Eredivisie. Triste de voir l'Ajax à ce niveau-là. Un club mythique, un club qui nous a fait rêver il y a quelques années de ça. Quand je parle de quelques années de ça, je ne parle pas de l'époque Johan Cruyff, etc., Bergkamp, mais je parle de l'époque Là, dans les années, on se rappelle de leur finale, demi-finale de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a cette, c'est triste de les voir à ce niveau-là. Et j'espère qu'ils vont se relever. Mais moi, c'est mon fait marquant de ce week-end, même s'ils vont sortir en Ligue Europa, parce que Marseille finira devant.
Quelqu'un souhaite réagir rapidement là-dessus? Non?
Moi?
Oui, Chakanza?
Mon fait marquant, vraiment.
Non, pas ton fait marquant, sur le sujet évoqué par Abou.
Ah, quel sujet?
Ouais, sur l'Ajax.
Bon, l'Ajax, vraiment, mais je sais pas quoi, je sais pas vraiment et ce qui leur arrive. Par moment, il y a des équipes vraiment qui sont confrontées à ça. L'Ajax, c'est plus une équipe formatrice. Je crois qu'ils forment beaucoup de jeunes et tout ça après qu'ils arrivent. Je pense qu'ils sont juste dans une mauvaise passe. Bah, je pense que d'ici vraiment la fin de saison, ils pourront vraiment se maintenir, mais pas jouer le titre ou essayer de gagner le championnat ou la coupe, ça serait vraiment difficile.
Ajax, Lyon, Olympique Lyonnais, même destin peut-être, hein, sait-on jamais. Hein. 30 secondes chrono, c'est parti avec Eladj.
Bah moi c'est simple, hein. il y a eu quelques faits marquants, moi il n'y en a pas eu un gros spécialement. Je vois les équipes de Ligue 1 qui sont un peu dans le dur, Grosso et notamment... Aubameyang aussi qui est dans le dur avec Marseille qui n'y arrive pas et c'est bien ce que je craignais depuis le début de saison et c'est ce qui s'avère véridique et voilà, moi à part ça j'ai pas d'autres polémiques voilà.
Réaction autour du plateau sur les cas évoqués par Eladj, personne? Alors on va enchaîner tout de suite avec notre ami Arthur. 30 secondes.
Alors moi je vais parler de deux faits pour moi qui m'ont marqué. C'est déjà la position de l'Olympique Lyonnais. Quand on pense qu'il y a une dizaine d'années, ils ont aménagé un nouveau stade, ils ont freiné les transferts et aujourd'hui ils sont en grande difficulté avec un nouvel entraîneur qui apparemment s'est mis à dos tout le vestiaire. Et le deuxième fait pour moi, c'est la carrière de Grisou et ce qu'il est en train de réaliser, puisque il a 9 buts d'être le plus grand buteur de l'histoire de l'Atlético, ce qui est incroyable. Voilà.
Ben super. Et en plein dans le temps imparti. Et dernière intervention avec Chakenza, 30 secondes chrono.
Mon fait marquant, c'est le doublé de Kylian Mbappé en équipe de France. Parce que là, vraiment, il est tellement critiqué. On le tire vraiment de partout. Il vit vraiment une période difficile. Là, je suis vraiment très heureux qu'il a pu rebondir. J'espère que vraiment, ça sera bon pour le PSG pour la fin de saison.
Merci Chakenza. Alors on l'a évoqué dans le sommaire, hein. L'Olympique Lyonnais dernier de la Ligue 1 et pourtant son président John Textor reste confiant. Est-ce que cela est finalement inquiétant, chers amis? On va commencer avec Arthur.
D'accord, alors moi je vais dire que c'est très inquiétant puisque comme d'habitude c'est un Américain qui vient investir beaucoup d'argent ou qui veut réaliser une plus-value dans le football et qui ne comprend pas le football. Je pense qu'il n'a pas compris qu'en fin de saison il y aura une descente et que c'est possible puisque en termes de qualité l'effectif lyonnais il n'est pas aussi fort et aussi grand que ça et surtout sur un adversaire direct entre guillemets sur la position actuelle du maintien. Tu viens de perdre 3 points contre un adversaire direct et qui te met à je crois 2 points de lui. Et c'est vraiment très inquiétant. Et surtout,
là, en l'occurrence, tu parles de Clermont.
De Clermont, qui, mm-hmm. qui est passé devant eux. Et, ça veut tout dire. Tu perds contre vraiment un adversaire que tu dois maîtriser chez toi, où tu as 10 fois plus de moyens que ce club. Et malheureusement, tu n'y es pas.
Mm-hmm. Cher Chakanda.
Bon, vraiment, concernant vraiment l'Olympique Lyonnais, je pense que vraiment le président, je sais pas si c'est trompe de direction ou quoi, mais vraiment, je pense que l'investissement a été un peu mal consenti. C'est-à-dire, déjà dans le recrutement, ils ont pas fait vraiment un recrutement de taille de Lyon, parce que Lyon, il fut vraiment par le passé, Lyon il faisait partie du cercle très fermé des 11 clubs d'Europe, des 11 meilleurs clubs d'Europe, mais aujourd'hui, vraiment, ce n'est que du passé. Mais déjà, il va falloir qu'ils s'entourent vraiment de, je sais pas comment dire, vraiment qu'ils s'entourent vraiment des gens qui connaissent mieux la maison. Je pense que oui, par exemple, pourquoi pas solliciter des gens comme Bernard Lacombe et autres, des gens qui connaissent mieux la maison, pour que vraiment Lyon vraiment puisse redevenir cet Olympique Lyonnais qu'on avait connu par le passé, avec des grands noms et tout ça. Surtout, c'est une bonne formation.
mon ami Eladj.
Ouais, bon moi comme je le disais, hein, je reste sur mes positions, je pense que Lyon vont se maintenir, ça va pas bouger.
Et, tu crois que Lyon va se maintenir?
Ah oui, j'en suis sûr de ça moi.
T'as vu le match d'hier?
Oui, j'ai vu le match d'hier.
D'accord.
Oui, je regarde les matchs, j'ai vu le match d'hier et j'ai vu que, franchement, dans
qu'est-ce qui te rend confiant?
Franchement, ils ratent énormément. En deuxième mi-temps, ils auront pu en mettre 4-5 faciles. Ils ne les mettent pas, c'est ça. En fait, ils loupent énormément et je pense qu'il leur faut. Je sais pas, Lacazette, il est pas trop dedans, je sais pas.
Mais il est tout seul.
Oui.
Oui, c'est ça, parce que il l'aligne pas avec Cherki, là il l'aligne avec Cherki. Au bout de 45 minutes, il l'a sorti et la compo n'était pas bonne. Grosso, il fait n'importe quoi et je l'ai dit depuis le début, il n'a pas le niveau pour entraîner un club comme Lyon. Je l'ai dit depuis le début. J'ai dit dès que j'ai vu Grosso, j'ai dit ça va pas le faire. C'est un type, c'est un profil un peu comme Laurent Blanc, voire encore plus mou. J'ai envie de te dire. Du coup, Grosso, il va pas faire.
C'est une question de compétence ou une question de mollesse ou deux, de dureté, moi je sais
les
pas.
Deux, des deux, les deux réunis en tout cas, parce que pour manager un club et un club et une équipe comme Lyon, je pense qu'il faut avoir les deux pour bien les manager.
Moi je suis pas d'accord avec Elhadj parce que je suis pas d'accord qu'ils vont se maintenir parce que ça fait quand même deux coachs qui passent cette saison avec le même effectif et c'est la même chose qu'on voit en termes de résultats et de contenu. Et c'est très inquiétant parce que on change très souvent de compo. Il n'y a pas de stabilité dans cet effectif. On est toujours en train de chercher des joueurs pour faire le 11. Et voilà, ça m'inquiète. On sort des joueurs un peu inconnus qui n'ont pas de référence et on leur demande de gagner des matchs. Et pour moi, cette équipe, elle a pas le niveau pour la Ligue 1.
Et justement, ça m'emmène justement à lire le message que notre ami Stéphane Desenclos nous a fait part, où il nous dit justement que d'après l'OPTA, donc 14 des 17 équipes qui ont compté 3 points après 9 journées sont descendues. Ça reste des statistiques, c'est vrai, mais ça renforce encore l'inquiétude qu'on pourrait avoir pour l'Olympique Lyonnais.
Mais c'est inquiétant surtout quand on a 34 journées. Enfin, on n'est plus à 38 journées chez Stade. Je ne sais pas s'il les a pris sur 38 ou 34 journées, mais à mon avis, ça doit être sur 38 journées. Sur 34 journées, là, il ne te reste plus que 25 journées. 75 points à prendre pour l'ensemble des équipes. Tu es à 6 points du premier non-relégable qui est Lens et Montpellier, qui finiront pas à cette place-là, qui finiront beaucoup plus haut. Enfin, moi, je ne vois pas à quel moment l'Olympique Lyonnais, dans quelle galaxie, vont pouvoir se maintenir. Et quand elle a dit ils ont des actions mais ils n'arrivent pas à les mettre, mais il a raison, mais ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Je vois pas ce qu'ils n'arrivent pas à mettre aujourd'hui, pourquoi ils arriveraient à les mettre la semaine prochaine
mais
ou celle
qui
d'après.
Peut marquer dans cette équipe.
Et pourtant excuse-moi Arthur, et là ouais. Et pourtant John Textor, mon cher Abou, a quand même assuré la non-inquiétude, si j'ose dire, qu'il a pour cette équipe. Tu penses que c'est juste de la communication ou il le pense sincèrement?
Moi, je pense que c'est de la communication, c'est à l'américaine. Mais la déclaration, elle est lunaire de John Textor. Enfin, moi, je l'ai lu hier, relu ce matin, relu cet après-midi et relu là avant l'émission. Je comprends pas
pour,
où ils vont.
Pour nos auditeurs, si tu peux faire un petit topo.
Alors, je déclare, notre équipe est trop bonne pour avoir ces résultats. On a vu une grande qualité sur le terrain ce soir. Je sais pas où il l'a vu, mais d'accord. Une belle performance. On ne devrait pas être à la place où nous sommes. Beaucoup de nos joueurs s'améliorent. Cette équipe ne risque pas la relégation. Aucune équipe reléguée dans n'importe quel championnat ne joue comme on l'a fait ce soir. On voit pas ce type de qualité dans une équipe qui descend. Non, ouvrez les yeux. Notre équipe est trop bonne pour ça. Ceux qui évoquent la relégation veulent juste parler de peur, faire des histoires. C'est un peu une blague, un non-sens. Je ne prends pas ça sérieusement. Personne n'est inquiet dans le vestiaire. Mais c'est ça qui devrait être inquiétant. Dans le staff ou moi-même, on ne parle pas du tout d'une relégation. Quiconque suit vraiment ce sport n'est pas inquiet. On attend ce mercato avec impatience, le mercato d'hiver, mais on a déjà la qualité pour être une des meilleures équipes du championnat.
Donc en fait, si j'ai bien lu, enfin j'ai bien compris dans tous les cas, je pense qu'il fait référence au mercato. Est-ce à dire que Lyon va devoir recruter? C'est ce qu'on lit, hein, on en comprend dans tous les cas. Ou je ne sais pas si vous avez compris comme moi.
Bah,
je pense qu'il compte plus sur le mercato à venir.
Mais il dit que même sans le mercato, il a une des meilleures équipes du championnat.
Et pourtant, il est dernier.
Donc,
et j'ai pas compris l'intervention d'Ela. Tu soutiens pas Grosso, en même temps tu nous dis dans le même discours que Lyon va se maintenir. Lyon compte sur quoi? Ou t'es comme Textor toi aussi?
Non, du tout. Textor, il est là pour embellir les choses parce que c'est un peu.
Bah, visiblement, toi aussi.
Non, il est arrivé, il a mis. C'est comme si demain, en fait, il est venu, il connaît pas grand chose au football, il est venu, il a misé sur un cheval et il se dit faut que mon cheval il gagne, en tout cas du moins faut qu'il me rentabilise ce que j'ai investi. Et voilà, on verra à la longue si ça arrive ou pas, mais moi je l'ai dit depuis le début, avec tant que Grosso sera en poste, ça va pas aller. Et je dis bien, au bout des 10 dernières, je pense qu'ils vont vite s'en rendre compte là, au bout de 3-4 journées, Lyon ne vont pas réussir à enchaîner. Grosso va être limogé, à ce moment là ils vont prendre un pompier de service qui va venir et il va faire le boulot. C'est ce que j'ai dit depuis début de saison et je maintiens encore cette position et j'en suis sûr encore que Lyon vont se maintenir.
Mais est-ce que ce sera pas trop tard quand ils vont prendre le pompier de service?
Non, je pense pas que ça sera trop tard parce que Grosso là, comment il enchaîne, il sait même pas en fait, il met des compos, il met des tactiques que lui-même il se contredit parce que en même pas à la mi-temps il a fait les changements et jusqu'à il dit j'aurais dû faire les changements un peu avant la mi-temps. C'est ce qu'il disait en gros, parce que...
Mais il a le droit de se tromper, hein, cela dit.
Il n'y a pas de problème. Mais au bout de... Ça fait combien de matchs qu'il est là? Tous les matchs, ils seront.
Mais moi, j'ai vu le match hier. Hein. Après, c'est pas pour défendre l'Olympique Lyonnais, loin de là. Mais je veux dire, il y a des décisions arbitrales quand même sur ce match qui sont quand même limites.
Ah, bien
hein.
sûr. Ah, la main sur le premier but, ouais, etc. C'est... Un pénalty non sifflé aussi où il y a une main dans la surface. Bien sûr, ce sont des faits de jeu. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a autour, je pense qu'on peut même pas s'arrêter là-dessus.
Faits de jeu avec des conséquences déjà très, très graves. Hein. Lyon est dernier, là.
Bien sûr, Lyon est dernier et c'est des conséquences graves. Mais c'est pas là où il y a un problème. Parce que clairement, même avec ces faits de jeu là, ils jouent contre Clermont aujourd'hui comme hier comme demain, ils doivent les battre.
Mais Clermont n'est pas mauvais, ouais. Hein, cela dit. En tout cas, moi j'ai regardé le match déjà face au PSG. Clermont s'est bien défendu hier également face à l'Olympique Lyonnais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait contre le PSG? Ils ont défendu, ils ont mis le bus. Le gardien a sorti une performance
à l'extérieur. Arthur.
Oui. Moi, je peux entendre ce que tu dis. Elle a dit, y a pas de souci là-dessus. Mais la réalité, elle est quoi? C'est comptable. Aujourd'hui, ils sont derniers. Ils ont 3 points.
Bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'on peut, pas les défendre? Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le trou. Donc aujourd'hui, c'est l'équipe la plus proche pour la Ligue 2 et moi, je les vois mal se sortir de cette spirale, puisque tu parles de sortir l'entraîneur, mais il faut avoir les moyens de s'en séparer. Tu viens de te séparer. Non, il n'y a pas d'argent. Parce que là, quand tu regardes...
John Textor l'a dit hier au micro, au micro, il l'a dit hier, il a dit, la DNCG vont être surpris des comptes.
Mais ça c'est un effet d'annonce. Tu peux annoncer que la DNCG va être surpris.
Non, mais même Abou, tu as évoqué le mercato, hein. Donc je pense que ici il parle de mercato, ça veut dire déjà lui-même il se contredit, hein, parce que quelque part il parle de mercato quand dans le même temps il dit qu'il a une très bonne équipe et en même temps il parle de mercato.
Un des meilleurs effectifs du championnat.
Donc ça veut dire que moi je pense qu'il va devoir agir, hein, il n'a pas le choix. Et Arthur, tu disais aussi que Grosso s'est mis quasiment le vestiaire à dos.
Oui.
Est-ce que tu as des infos là-dessus?
Moi c'est en lisant la déclaration de Jérôme Roten aujourd'hui. Exactement. Dans son émission, qui en a parlé, il a dit que déjà Cherki, qui est un des joueurs les plus importants au sein de l'effectif, vu que c'est un Lyonnais et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui fonctionne avec les espoirs et qui est carrément en fin de course à Lyon, on lui trouve pas une place, et si déjà tu te mets à dos certains joueurs lyonnais, comment tu vas exister dans le vestiaire à l'Olympique Lyonnais? Et surtout quand on regarde les compos de match, elles sont tout le temps changeantes. Donc il n'y a pas de stabilité. Donc à qui il fait vraiment confiance dans cet effectif?
Chakenza?
Bon, sincèrement, je pense que là, vraiment,
Arthur?
Il a parlé vraiment d'un cas concernant Atui. Il a parlé d'un cas concernant vraiment Cherki et tout. Moi, je pense que Cherki, déjà à Lyon, on n'a pas le Cherki vraiment qu'on a envie de voir. Donc Cherki, il est mal placé vraiment pour se mettre à dos l'entraîneur et tout ça, pour qu'il y ait des soucis dans le vestiaire. Mais je pense que Grosso, c'est un professionnel. Parce que même s'il n'a pas entraîné d'un grand club, même déjà en Série B, c'est un niveau qui est élevé que la Ligue 2. Mais quand même, il a montré quand même pas mal de grandes choses. Il a fait ses preuves. Et ce qui vraiment a suscité l'intérêt de Lyon envers lui. Donc je pense que...
Mais sauf que là, quand il arrive déjà, il arrive un peu comme un pompier, un secouriste.
Non, mais chez Kenza,
il n'y a pas forcément...
Non, mais là, il arrive dans un vestiaire malade.
Oui, mais
quand
justement...
Grosso,
je suis d'accord avec chez Kenza. Il arrive dans un entraîneur de Série B. Il va ramener Lyon en Ligue 2, il ira les entraîner là-bas.
Exactement.
Mais t'as raison, t'as tout dit, t'as tout résumé.
Merci.
C'est un entraîneur de Série B qui a prouvé en Série B, il va prendre Lyon, il va aller ensemble en Ligue 2 et reprend le travail.
S'il garde,
autant moi je suis pas de David Delage, je pense qu'ils vont être relégués quoi qu'il arrive, mais s'il garde Grosso jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr qu'ils descendront.
C'est sûr.
Il
n'y a pas de moyen de le sortir.
Moi je pense que le problème, ça soit pas Grosso.
C'est le problème.
La qualité de l'effectif.
Parce que là, vous venez de dire que la DCG, Textor, il a dit que vraiment au niveau des comptes, que tout est nickel, que vraiment, qu'il y a de l'argent et tout. Si Textor, il a vraiment dit, c'est qu'il est en mesure, d'offrir des joueurs. Parce que le plus souvent, il y a des trucs qui ne se disent pas. Quand un entraîneur, on fait appel à un entraîneur, l'entraîneur qui vient, il a un plan de jeu. Mais s'il fait le plan de jeu, qu'il n'y a pas les hommes capables de mettre ce plan de jeu en exergue, c'est comme si l'entraîneur, il échoue déjà. Parce que oui, bien sûr, il faut avoir les idées en place, mais il faut des gens qui puissent transmettre ces idées-là sur le terrain, des gens qui sont capables de faire, des gens qui sont capables de se dépasser par moment, des gens qui sont capables d'avoir des sauts d'orgueil, des gens qui sont capables de tirer l'équipe vers le haut. Mais je pense que présentement à Lyon, il n'y a que Lacazette qui le fait. Donc mais c'est impossible, dans une équipe, il n'y a pas une seule personne.
Là, on parlait de Grosso, je vais juste rebondir sur la déclaration qui citait Arthur et là de Roten. Il dit, j'ai essayé d'avoir des gens du vestiaire et je les ai eus. Je ne vais pas dire les noms, mais Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés, très expérimentés, qui m'ont même dit qu'il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir. Il s'est mis tout le monde à dos. S'ils gardent cet entraîneur-là, ils sont morts et ils vont dégringoler.
Philippe Carnu nous a rejoint également au bout du foot. Voilà. On intervient sur l'Olympique Lyonnais qui est dans une posture plus que chaotique.
Ouais, on en avait parlé il y a 15 jours, Malik. Bah, on va reprendre ce qu'on a dit 15 jours. Le problème, c'est pas Grosso, c'est pas Blanc, c'est pas les joueurs. C'est l'encadrement. Ce sont pas des gens qui connaissent le football, les patrons. Et ils font du business, c'est tout. Donc à partir de là, on fait des mauvais choix de joueurs, on fait des mauvais choix d'entraîneurs, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ils font du business. Il n'y a pas de véritable sportif à la tête de ce club. Voilà. Donc après, il y aura un décalage entre les entraîneurs, entre les joueurs. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, c'est trop tard. Il faut changer l'équipe dirigeante.
C'est vrai,
les décideurs surtout.
Je veux bien. Ouais.
Est-ce que c'est pas trop tard là?
Non, mais c'est trop tard. Non, mais je veux dire.
Textor, il est là là.
Non, c'est trop tard maintenant. Mais je veux dire.
Pour cette saison, c'est pas encore trop tard.
Pour cette saison, c'est pas encore trop tard. Mais ils vont descendre.
Non, pour cette saison, c'est pas trop tard.
Philippe, il est comme moi. Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais va descendre.
Oui, ça va.
Si véritablement, il n'y a pas vraiment.
Ils vont pas gagner à Clermont.
Un gros coup dans la fourmilière. Franchement, ils sont capables de descendre. En plus, le pire, c'est que je crois pas que cette équipe, individuellement et collectivement, aussi bien au niveau des dirigeants que même au niveau des joueurs, sont préparés à jouer le maintien.
Mais non, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien.
Clairement, ils savent bien qu'ils viennent jouer le maintien. Metz, c'est tout ça. Ils savent bien que ça va être dur.
Mais Lyon, ils le savent quand même.
Mais Lyon, non, quand ils viennent, ils se disent...
Là, quand même, on ne parle pas du Paris FC.
Lyon se dit certainement, je fais au moins l'Europa League. C'est ça, en fait. Quand l'Olympique Lyonnais aborde ce championnat, il se dit quoi? Je fais au minimum l'Europa League. Sauf que là... ils sont en train de lutter pour ne pas descendre. Et quand tu n'es pas préparé en amont, est-ce que ça risque pas d'être très compliqué pour cette OL?
Moi, je pense qu'ils ne sont pas préparés mentalement, mais comme Philippe il l'a dit, moi, je pense que voilà, les dirigeants ne sont pas bons. Après, on voit beaucoup de dirigeants.
Oui, mais ça c'est factuel aujourd'hui, on le constate. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, maintenant, on sait qu'il y a plein de dirigeants qui arrivent jouer le tout pour le business. Il y en a beaucoup. Il y a des clubs où ça marche. Maintenant, moi.
Pas beaucoup.
Mais il y en a quand même où ça marche. Maintenant, moi, je dis simplement que. Grosso, on ne dit pas que c'est le seul problème, hein, ça n'est pas le seul problème.
Elle a dit qu'il n'est pas prêt pour Grosso.
Ah non, mais
depuis le début.
Depuis le début, avant qu'il fasse un premier match, j'ai dit Grosso entraîner Lyon. C'est fallait garder Laurent Blanc, c'était même mieux de garder Laurent Blanc.
Je pense que Laurent Blanc lui-même, il a vu que l'effectif était pas top. Je pense que même lui, Laurent Blanc lui-même s'est poussé.
D'accord, mais maintenant, même avec une équipe qu'ils ont là actuellement, franchement, Cherki, aujourd'hui en Ligue 1, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Quand je dis un top joueur,
Cherki en équipe de France Espoir, il fait de bons matchs.
Mais en Ligue, il est décisif. Il est décisif et il fait des matchs extraordinaires. Clairement.
Mais comment ça se fait qu'à l'Olympique Lyonnais,
parce qu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, donc il le sait.
On le sait, on le sait tous. Il y a une relation coach, joueur qui compte énormément pour ce type de joueur qui soit en pleine croissance. Ça compte énormément. L'année dernière,
mais un joueur, il joue d'abord pour lui, non? Avant de jouer pour le coach.
Non, il joue pour lui, mais il joue pour le coach.
Mais il a besoin de confiance.
Il a besoin coach déjà d'être mis dans les conditions.
Et que les autres aussi lui donnent cette confiance.
Exactement. Grosso ne le met pas dans les conditions. Comment il veut réussir avec un effectif déjà amoindri? Et en plus de ça, il n'arrive pas à leur donner la confiance. Il va mettre la casette, le lendemain il va le retirer. Il va faire rentrer Cherki titulaire, au bout de 30 minutes, tu vas le faire sortir. Non mais franchement, on a où? Clairement, Grosso est le problème. Moi je pense qu'il faut un coach qui vienne et qui leur dit, les gars, c'est simple, on va jouer.
On
va se maintenir, mais ce qu'on joue cette année, c'est le maintien. Leur mettre une grosse gifle et ils vont comprendre.
Si y a des joueurs comme ça, tu peux leur dire qu'on joue le maintien à des Lacazette, Tolisso.
Franchement,
bien sûr, pourquoi pas.
S'ils veulent aller chercher autre chose,
mais pourquoi pas, à un moment donné, il faut être réaliste.
Mon cher Arthur, on est plus dans.
Grosso avec toi et ramène-le en série B.
On n'est plus dans l'idée de est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire à Lacazette ou à Tolisso ou à même Lopez. Aujourd'hui, le constat, il est là. L'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1.
Le mal est fait.
Moi, je pense que c'est plus compliqué.
On n'a plus besoin de te le dire.
Tu peux leur dire ce que tu veux. Tant que eux, dans leur tête, ils n'ont pas fait le clic du changement dont je vous le maintiens, et ils ne le feront pas.
Ça fait penser au PSG. PSG de 2008,
le PSG de Rotten d'ailleurs.
Ils se sont sauvés.
Qui a failli défendre, descendre.
Parce qu'il y avait Lens qui était plus mauvais que lui. Mais sinon, le PSG descend cette année-là. Et pourtant, il y avait de la qualité. Mais ces joueurs-là n'étaient pas prêts pour jouer le maintien et à se battre tous les matchs, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Et pourtant, il y avait des Pauleta, des Rotten, il y avait Landreau, il y avait, je crois, Yepes à un moment.
À Maradiani.
Et on en a vu d'autres clubs hein, sur les précédentes saisons qu'on ne voyait pas descendre, comme Bordeaux. Bordeaux, il y a de la qualité.
Monaco aussi.
Ça peut pas maintenir. Ah non, le foot, ça va très très vite. Et c'est impitoyable.
Non, mais il y a déjà 4 semaines, 4 numéros, en tout cas, d'Au bout du foot, où on parlait déjà de l'Olympique Lyonnais. Franchement, je pensais que ça allait s'améliorer et qu'on n'en ferait pas cas
dans nos
différentes émissions. Malheureusement, pour l'Olympique Lyonnais, la qualité. Ça continue.
Le seul joueur créatif dans cet effectif, c'est Cherki.
C'est Cherki. Ouais, c'est vrai qu'il y a
tous
pas
les autres milieux.
C'est vrai qu'il n'y a pas de.
Il y a un joueur, Nouméa, qui est explosif. Et t'as Lacazette qui, l'année dernière, sauve la saison de Lyon, mais il fera jamais une deuxième saison à plus de 25 buts.
Non, mais même quand tu regardes le contenu de ses matchs, c'est pas pourri. Hein.
Oui.
C'est juste qu'il est tout seul, en fait. Hein.
Oui, mais exactement. C'est un top joueur, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres top joueurs dans le jeu, et même le gardien, il est déficient.
Ouais, c'est vrai que ça va pas trop. Hein. Je sais pas, il a la tête un peu à l'envers. Là, justement, l'Olympique Lyonnais va affronter l'Olympique de Marseille dès le week-end prochain. Et dans cette OM, il y a un attaquant, justement, qui a été recruté en début de saison, Aubameyang, qui aujourd'hui peine. Hein. Il peine à marquer des buts, notamment en championnat. Là-dessus, mon cher Elad, qu'est-ce que tu peux en dire ? Coup de maître ou flop annoncé, Aubameyang à l'OM ?
Aubameyang, c'est un peu comme Grosso. Je l'ai dit depuis.
N'exagère pas. N'exagère pas quand même. N'exagère pas. On parle d'Aubameyang.
Avant la signature.
On parle d'Aubameyang.
C'est là où on commence à perdre la vie.
Non, mais attendez, j'ai vu le contrat de Aubameyang, j'en reviens toujours pas.
Non, mais là on parle football là.
Non, mais d'accord, mais ça en fait partie quand même. Parce que
on peut pas
ils veulent pas garder Alexis Sanchez. Pourquoi ? C'est niveau salaire.
Mais Sanchez, il avait un autre projet. Et
Ils ne veulent pas le garder parce qu'ils estiment qu'il correspond pas à la philosophie de jeu de Marcelino. Sinon, Sanchez, financièrement, il pouvait le garder.
Non,
parce
Sanchez ne voulait plus rester. Il a fait attendre longtemps.
Ils l'ont fait attendre. Après, à la fin,
en tout cas, lui, ce qu'il déclare, c'est pas ce qu'il dit lui. C'est pas ce qu'il dit lui. Il dit je voulais rester. Le club.
C'est facile de dire ça.
Non, il dit je voulais rester. Et c'est Longoria qui m'a dit non.
Les amis, on ne saura pas le fin mot de cette histoire. Là, on va revenir sur Aubameyang.
En tout cas, moi, ce que je dis sur Aubameyang. Aubameyang, il est cuit. Il n'a aucune finition. À Marseille, il faut un attaquant qui est capable de mettre 15-20 buts en Ligue 1. Parce qu'avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent trouver un attaquant qui joue titulaire. Vous avez vu le dernier match contre
Nice.
Contre Nice,
ouais, il tape la base du poteau.
Oui, il tape que les poteaux. Poteau, c'est hors-cadre. Non, mais qu'on soit clair. Poteau, c'est hors-cadre.
Ouais, c'est
il
pas
met des poteaux, c'est hors-cadre. Et il n'est pas efficace. Aubameyang, il lui faut toujours une dizaine d'occasions. Or que quand tu arrives dans des matchs comme ça, tu joues le haut niveau, tu joues contre Nice et tu veux une place en Ligue des Champions, Nice qui joue là actuellement, qui sont premiers, tu joues contre une équipe comme ça, première occasion, faut la mettre. Deuxième maximum, faut la mettre. Quand il t'en faut 5-6 et tu n'arrives pas à les mettre au fond, ça devient dur. Ça devient très dur.
Philippe, t'es aussi dur avec Aubameyang ?
Je pense qu'il a peut-être pas confiance dans ce club, c'est tout. Il est peut-être mal à l'aise dans ce club. Aubameyang, ça reste un super joueur.
Mais en même temps, en Coupe d'Europe...
Il avait pas confiance en Arsenal aussi, vu que l'année dernière, c'est 14 matchs à Chelsea.
Je pense qu'il est peut-être...
Non, mais là, en l'occurrence, en Coupe d'Europe, quand même, il arrive à scorer, mine de rien.
Ouais. Bah écoute, bizarrement, je sais pas pourquoi il score en Coupe d'Europe et puis pas en championnat.
Aubameyang, lui te laisse toi aussi perplexe.
Moi je pense qu'il n'est pas en confiance dans le club, c'est tout.
Moi je pense pas que ce soit une histoire de club ou de pas club. Enfin, moi je pense que c'est une histoire de joueur. Le joueur il est pas bon. Et il me laisse perplexe.
Oui, mais pourquoi
lui. Le joueur il est pas bon, mais je pense pas que ce soit une histoire de club. Parce que quand il était à Chelsea, il avançait plus aussi. Sur sa fin de saison Arsenal.
Il jouait beaucoup moins à Chelsea déjà.
Justement parce qu'il avançait plus. Sur sa fin de saison Arsenal, il avançait plus. Il y a ce prêt à Barcelone. Où ça se passe bien avec 11 buts en 16 matchs, je crois. Mais sinon, moi, je pense juste que le joueur, il est sur la fin. Il a 36 ans, Aubameyang. On parle pas d'un joueur qui a 28-29 ans et qui est dans la flambée de son âge. Non, là, il a 36 ans. Il est sur la fin de sa carrière. Il se rend compte que la Ligue 1, elle est plus comme.
34 ans ?
Ouais. 34 ?
il se rend compte que la Ligue 1 elle est plus comme il l'a laissé, qu'il peut plus jouer sur ses qualités de vitesse comme il le faisait avant, donc il essaie d'adapter son jeu et ça fonctionne pas. C'est tout. Je pense juste que c'est le joueur qui est sur le déclin et ça arrive. C'est une erreur de l'avoir.
Donc c'est un flop au niveau du recrutement.
Oui, il a flopé.
Mais justement, Chakenza, est-ce que c'est pas trop tôt pour parler de flop?
Bon, concernant Aubameyang, bon, à l'heure actuelle, si on peut le dire, on peut le dire qu'il a flopé. Parce que là, c'est vraiment, ils ont besoin d'un attaquant, ça trempe. C'est vraiment Aubameyang, il n'a pas le flopé maintenant. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il a dit, Abou, si je le rejoins, il a flopé depuis ces deux dernières années. Ce n'est pas Aubameyang qu'on a connu à Dortmund, ni à Arsenal, où il a été vraiment meilleur buteur de la Première Ligue avec Sadio Mané et tout ça, et Mohamed Salah. Ce n'est plus le même joueur. Parce qu'à un moment donné, comme il a dit, vraiment, il est sur le déclin, il n'a plus vraiment cette finition, ce jeu vraiment qu'il apportait, ce décalage. Par moments, ce joueur vraiment avec sa vitesse et tout, à lui seul vraiment qui pouvait faire tomber un match ou faire gagner son équipe. C'est plus le même joueur. Et là, vraiment, pour Marseille, c'est une erreur. Moi, je pense que vraiment, il y avait vraiment des jeunes joueurs vraiment qui pouvaient faire cette affaire. Mais pourquoi opter pour Aubameyang, là, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment dans la tête du président de l'Olympique de Marseille ni du directeur sportif, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû racheter.
Arthur, toi, tu as de l'espoir pour Aubameyang sur une remontée?
Non, pour moi, c'est un top joueur, Aubameyang. Il ne faut pas occulter toutes ses qualités. Et certes, ces dernières saisons, il est en perte de vitesse, mais c'est normal, il prend de l'âge. Il a plus sa vitesse de l'époque Dortmund ou Arsenal, début Arsenal. Mais la vérité, c'est regarder la composition de Marseille. C'est une équipe de transition. Et pour moi, Marseille serait plus fort avec Aubameyang autour de Vitinha. Et surtout avec des joueurs avec un profil qui a plus de maîtrise de balle. Mais quand tu joues avec Harit, Ndiaye, qui sont deux joueurs qui tripotent beaucoup le ballon, et Ismaël Assar, qui a à peu près le même profil qu'Aubameyang, mais en fait... Il n'y a pas vraiment de complémentarité entre tous ces joueurs-là, en fait. Moi, je trouve qu'ils ont à peu près le même profil.
Mais Aubameyang, il est plus axial, donc.
Oui, mais pour moi, ça a été un attaquant de côté, de couloir, qui aujourd'hui est positionné en neuf. Et pour
donc,
moi, il n'est pas
bien dans son club.
Pour moi, c'est une mauvaise utilisation parce qu'il n'a pas, il n'a pas les qualités de jouer dos au jeu, les qualités de jeu de la tête.
Tu mettrais Aubameyang à gauche?
Moi, je le mettrais sur un côté ou en électron libre. Pour que Vitinha puisse faire son rôle de numéro 9 et donner de l'espace à Aubameyang.
Mais visiblement, Vitinha ne donne pas satisfaction non plus, hein, que ce soit avec Marcelino et même là. Mais là, les entraîneurs se suivent, se succèdent, mais c'est toujours le même. Peut-être qu'à l'entraînement aussi.
Si tu l'installes pas un joueur et si à chaque fois au bout de 3 matchs.
Mais si à l'entraînement, c'est le coach aussi qui regarde les entraînements. Si le contenu des entraînements au niveau de Vitinha ne sont pas optimaux.
C'est la même chose avec Cherki. Cherki aujourd'hui. Si, moi, je pense que l'Olympique Lyonnais était meilleur. On reparle de Lyon, mais l'Olympique Lyonnais était quand même meilleur avec Cherki et Laurent Blanc sur le banc qu'avec Grosso et aujourd'hui Cherki sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la même chose. Je pense qu'il faut essayer un autre système ou un autre positionnement pour Aubameyang pour qu'on puisse l'utiliser pleinement de ses capacités.
Philippe, tu conclus là-dessus? Tu penses véritablement qu'Aubameyang n'est pas dans le bon club selon toi?
Oui, je pense.
Il n'est pas,
même s'il
est un
petit peu
à son aise.
Oui, je pense qu'il n'est pas.
Parce que là, il doit prendre sa retraite alors.
Non, bon, tu prends sa retraite. Ça dépend.
Il n'est pas dans le bon club.
Il peut aller ailleurs, ça peut très bien marcher. Ça dépend.
Moi, je ne suis pas du même avis que toi. Je pense que le problème, ce n'est pas le club. Parce que là, à Chelsea, on ne pourra pas dire vraiment qu'il était dans le mauvais club.
C'est son utilisation.
Non, c'est pas le club. Là, c'est tiré sur l'Olympique.
Non, le problème, ce n'est pas le club.
Un moment donné, sur le
club. On peut le faire. Après, il faut déclarer quand on est supporter du PSG. Dans ce cas-là, on vient, on le dit. Mais on peut pas tirer sur l'OM.
On est journaliste.
On peut pas tirer sur l'OM pour tirer sur l'OM. Parce que là, dire que le problème, c'est le club, non.
Je pense que Aubameyang peut bien jouer dans toutes les positions.
Ça marche pas. Le jeu
dans toutes les positions. Cela dit, Abou, Philippe, il a le droit de le penser.
Il a le droit de le penser. J'ai le droit de dire que le problème, c'est le club.
Par contre, c'est bizarre pourquoi il marque en Coupe d'Europe.
Il faut peut-être solliciter une interview avec Aubameyang pour savoir s'il est véritablement bien installé dans ce club.
Il va peut-être parler. Il va peut-être parler aussi après.
Il y avait une déclaration quand il y a eu l'histoire avec Longoria et les supporters qui sont partis menacer Longoria. Il y avait un compte Twitter qui s'appelle La Minute OM, pour pas les citer, qui avait sorti Aubameyang, je sais plus qui, se demande pourquoi ils sont venus à l'OM, parce que avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Aucun des autres joueurs a répondu. Lui, Aubameyang, il a pris la peine de prendre son téléphone et d'aller sur Twitter. Arrêtez de raconter n'importe quoi sur moi. Je suis très bien là où je suis. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est juste que le joueur, il est sur le déclin. Il faut l'accepter.
Comment il va pas être bien où est-ce qu'il est? Il prend 8 millions à l'année.
Voilà, je pense juste que c'est un.
Ouais, mais là, tu peux pas dire ça. Je pense que Aubameyang, s'il s'annonce pour l'Arabie Saoudite ou un de ces pays, je pense quand même qu'il
est français, Aubameyang. Il n'y a aucune équipe française qui l'aurait pris à ce salaire-là, si ce n'est Marseille.
Non, mais je suis en train de te dire
après,
autre chose.
C'est un joueur gratuit aussi.
Je suis en train de te dire que
Aubameyang. Je suis que tu payes 24 millions derrière, je préfère acheter.
Non, mais je suis en train. Non, mais moi, je te dis. Là, dis-moi, je te dis autre chose. Je te dis simplement, si tu regardes uniquement l'aspect pécunier, je veux dire qu'Aubameyang aurait pu aller en Arabie Saoudite, par exemple, et gagner beaucoup plus que 8 millions annuellement.
Oui,
donc, je veux dire.
Je pense que.
Peut-être qu'à un moment donné. Oui, mais il avait peut-être aussi un challenge où il y a de la ferveur. Marseille, il a regardé un peu. Il a fait un peu le tour. Il a estimé que Marseille pouvait être un dernier challenge pour lui en Europe en termes de ferveur, et sachant que l'Olympique de Marseille justement a été qualifié pour les phases qualificatives de la Ligue des Champions, il s'est peut-être donné une chance qui n'a pas abouti certes, mais moi je sais pas, j'ai foi quand même en un retour d'Aubameyang. Je le sens remonter la pente et avoir au moins une bonne dizaine de buts d'ici la fin de la saison.
Oui, une dizaine, mais quand tu joues à Marseille tu dois en mettre une vingtaine normalement quand tu
es titulaire.
Pour moi,
donne-nous les noms des attaquants qui ont mis 20 buts.
Et que tu veux jouer le titre. Et que tu veux jouer le titre.
Même à l'époque Drogba, je suis pas sûr.
Des attaquants à 15 buts aujourd'hui, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Pour te dire, il y en a pas. Non, mais c'est pas sur une saison, parce que des coups, on en a vu. Mais après, récidiver, enchaîner sur 2-3 saisons et monter en puissance, passer de 15 à 20, 20, 25, il n'y en a pas des masses.
Malik, ce qui me fait peur, c'est qu'il a signé pour 3 saisons. Aubameyang a signé pour 3 saisons et actuellement là c'est sa première saison, il est déjà comme ça, il prend de l'âge, il est déjà vieux hein, mais il prend de l'âge encore en plus. Du coup l'année prochaine tu le vois faire une meilleure saison.
Bah on verra bien, l'avenir nous le dira, mais en tout cas
mais sur un début de saison.
Moi j'ai foi quand même à la remontée d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Ah, tiens, l'OGC Nice, les rouges et noirs deuxième de la Ligue 1. Est-ce que, selon vous, le podium final est à la portée des Niçois, Arthur ?
Comme d'habitude, sur des outsiders de Ligue 1, et on en a eu, hein, y a toujours eu des très bonnes saisons de clubs comme Rennes, comme Lorient, qui faisaient des très bons débuts de saison et qui, à la fin de saison, se sont un peu gamelles. Ce n'est pas la première fois que l'OGC Nice démarre très bien en championnat. Maintenant, il faut voir sur la durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nice, c'est quand même des gros investissements sur des joueurs sur les 3 dernières saisons. Donc, il faut voir. Moi, je pense qu'ils ont eu quand même la chance de prendre le PSG avant un match important Ligue des Champions. Ils ont eu la chance aussi de prendre l'OM qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis et qui devait préparer un match d'Europa League cette semaine, aussi important pour eux.
Mais pourquoi dans le championnat de France, on est toujours en train d'excuser les clubs qui jouent l'Europa League? On a l'impression qu'il n'y a que les clubs français qui jouent les championnats.
Mais oui, mais c'est une réalité.
Les Coupes d'Europe.
Le PSG, c'était la première fois qu'ils gagnent juste avant un match de Champions League, parce que les deux premiers, ils ont fait, je crois, défaite et match nul. Donc on ne peut pas occulter que... En France, et c'est pour ça qu'on a que seulement deux coupes d'Europe, c'est qu'on a du mal à se motiver.
Non, une coupe d'Europe, pas deux.
Ouais. Deux. Il y a la grande et la petite, mais t'es pas gentil, la maléfique.
Ah, la coupe des vainqueurs de coupe.
Oui.
Ah ok. Autant pour moi. Ah, non, autant.
Si les pommes n'existent plus, ça en fait deux.
Non, je pensais à la Ligue des Champions, qui est la véritable coupe, mais bon, oui. Oui. Arthur, tu peux enchaîner.
Mais voilà. Mais voilà. Moi, j'attends toujours de voir Nice, puisque même sur le jeu, c'est pas non plus très emballant. C'est pas la meilleure équipe pour moi qui joue au ballon en Ligue 1 aujourd'hui.
Ah ouais. Donc pour toi, c'est pas certain de voir Nice sur le podium en fin de saison.
Trop tôt pour le dire
à bout.
Ouais, Nice. Moi, je les vois dans le. Est-ce qu'on peut, podium, on peut aller jusqu'à la 4e place? Qualification.
Non. On a dit podium. Abou, on a dit podium.
Podium, c'est 3. Okay.
Bon, ils finiront pas sur le podium alors.
Ah, tu vois qui alors dans ce
cas-là? Sur le podium.
Oui.
Moi, je vois le PSG finir premier, Monaco deuxième et Marseille troisième. Je pense que ce sera dans cet ordre. Et je vois Nice par contre finir quatrième. Et je trouve que, moi je trouve que c'est une belle équipe Nice. Il y a des bons joueurs. Je trouve que le coach, ce qu'il fait, c'est cohérent. L'équipe en place, elle est cohérente. Je trouve que la direction cette année, ce qu'ils font aussi, c'est cohérent. Après, le seul problème, c'est qu'il y a le président là, Radcliffe, président d'Ineos, qui veut racheter 25% de Manchester United. J'ai juste peur que ça, ça ait des incidences sur le club au cours de la saison. Sinon, c'est une équipe que...
Avec des joueurs qui partent, c'est ça ?
Ouais, des joueurs qui partent. Et même un... par défaut un investissement moins massif sur l'équipe première, mais sinon je trouve que c'est une franchement Nice, je trouve que c'est une bonne équipe et c'est une équipe qui avance doucement, parce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux au football comme il disait Arthur, c'est pas l'équipe la plus forte, mais c'est les petites équipes comme ça qui avancent tout doucement et qui à la 34e journée, bah tu vois, ils ont pris les points qu'il fallait prendre, ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner, comme là contre l'OM, finalement l'OM qui est un concurrent direct pour les Niçois, c'est un match que tu réussis à remporter, ils ont battu le PSG aussi si je dis pas de bêtises,
ouais, l'extérieur.
Ouais. Qui, ils gagnent aussi à l'OM aussi. Enfin, c'est une équipe quand même.
Ça donne confiance, hein. Ouais, quand on bat le PSG, on bat l'OM, hein, Chekenza.
Oui, bien sûr.
Ça peut donner des ailes, hein.
Oui, bien sûr. Pourquoi pas, même plus des ailes, vraiment. À un moment donné, on se croit tout permis. Ça permet aussi à l'équipe de rêver. Le coach aussi, il a confiance. C'est-à-dire déjà que le discours, il passe bien. Mais je pense que Nice, pourquoi pas, il peut être sur le podium. Parce que là, déjà, rien n'est joué. Mais le championnat, vraiment, il va commencer à se dessiner à partir de mi-janvier, c'est-à-dire à partir des phases retour. Ce sont des phases qui sont beaucoup importantes. Si les joueurs, ils ont toujours cette forme-là, et le discours du coach, il passe toujours bien, ben, je pense que pourquoi pas.
Donc, d'ici mi-janvier, si Lyon est toujours dernier, c'est mort.
Ben, hein? Moi, je me dis oui, parce que les phases retour, le plus souvent, c'est tellement difficile. Parce que déjà, les phases retour, les entraîneurs, ils les préparent différemment. Et ils ont déjà joué un match, donc ils connaissent un peu comment l'équipe joue et tout.
Donc d'ici la moment... mi-janvier aussi, si l'OGC Nice est sur le podium, pour toi, c'est bien parti.
Ouais, c'est bien parti. Ouais,
ils y restent.
Ouais, ils seront dans la bonne posture. Pourquoi pas, et s'ils enchaînent, ils font les résultats qu'ils font. Parce que là, le championnat ne fait que commencer, mais à partir de janvier, vraiment, on serait dans les phases retour. Et là, c'est beaucoup plus difficile, surtout.
Mon cher Philippe, visiblement, l'air de... Je ne vais pas finir.
Ouais, vas-y.
Visiblement, l'air de la Côte d'Azur, là, ça ouais. Plaît bien aux joueurs de Nice.
Oui, moi, j'allais dire, je les vois un petit peu coincés dans la deuxième moitié de championnat. Et je pense que...
Ah, tu les vois...
Ouais, enfin, ils termineront cinquième, quoi. Je pense qu'ils vont avoir effectivement un petit coup de mou dans le courant du mois de janvier, février.
Non, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, hein. Ils ne sont pas comme Marseille, comme
Rennes. Ils peuvent quand même avoir
un
petit coup de mou. C'est vrai que c'est des équipes qui prennent des points au début. Bon, Lorient, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe à jouer l'année dernière. Ils ont eu un petit coup de mou après. Et je pense que Nice... Bon, ils seront dans le top 5, mais je ne les vois pas sur le podium.
La confiance de Nice est véritablement, c'est véritablement révélée quand, justement, les Rouges Noirs ont battu le PSG, hein, mon cher Eladi. C'est venu de là, hein, ce véritable déclic.
Moi, je pense que ça venait un peu d'avant aussi, parce qu'avant ça, ils enchaînaient les bonnes performances et je pense qu'ils auront gagné ou perdu contre...
Non, mais c'était des performances, je veux dire, avec des équipes plus ou moins de même niveau. Oui, ouais.
Du même niveau. C'est du même niveau quand même. Du coup,
mais avec le PSG, depuis, ça carbure. Hein.
Oui, après, enfin, ça carbure, c'est Marseille derrière. Du coup... ça carbure pas vraiment, je pense que ça vole pas très haut. Marseille n'est pas en pleine forme et voilà, ça reste Marseille, quoi. C'est moins fort que le PSG, du coup je pense que non, ça reste dans leur lignée, c'est à leur portée, quoi. Moi, ce qui me fait peur juste côté Nice, c'est Mofi et Laborde qui n'arrivent plus à marquer depuis quelques matchs et normalement c'est vraiment eux les plaques tournantes, mais on voit que même sans eux, en tout cas du moins sans qu'ils soient décisifs, ils réussissent à gagner des matchs et des matchs importants même.
Mais surtout, faudra faire attention à la concurrence, puisque si personne veut de la deuxième ou de la troisième place, Nice sera sur le podium, puisque quand on regarde le classement, t'as Lille, t'as Brest et Reims qui suit derrière, après t'as Nantes, Marseille, donc forcément
t'as vraiment des équipes qui sont très ressemblantes, hein. Quand tu vois Nice, Rennes, t'as des périodes où on fait deux victoires d'affilée, après on se prend une défaite, on tombe dans un nul pour repartir sur une victoire plus une défaite après. C'est vraiment incertain, cette Ligue 1, hein.
Non, moi je pense que c'est mental, je pense
difficile
que
à faire des paris, hein, dans cette Ligue 1,
quand ils endossent un certain statut ou une certaine position en championnat, surtout à partir du mois de mars-avril, ils ont du mal après à continuer sur sa lancée. Et je pense que...
Donc c'est quoi, ça demande une préparation mentale.
Ah, il faut un autre type de joueur. Hein. Faut des joueurs avec vraiment qui tiennent la pression pour enchaîner les victoires et aller au bout dans le championnat.
Mais selon toi qui pratiques les footballeurs de façon proche, est-ce que tu crois, Arthur, que dans ces cas de figure-là, C'est seulement une préparation mentale ou c'est lié aussi à l'environnement général selon non, qu'on c'est, soit c'est, dans c'est... une ville comme Marseille ou dans une ville comme Nice, Rennes, Clermont où on a peut-être plus de quiétude.
Non, mais c'est vrai que c'est important l'environnement club, c'est-à-dire qu'il faut sentir un engouement que la ville, le représentant de la ville, tout le monde pousse et tire dans le même sens parce que les joueurs ils ont besoin d'être poussés, d'être aussi emmenés avec eux parce que eux ils peuvent pas le faire tout seuls. Donc
oui, Abou.
Je pense vraiment que s'ils doivent le faire, c'est parce que les autres ne sont plus là. Déjà quand on regarde Marseille, le nombre de points, ils sont qu'à 12 points. Monaco est déjà à 20 points, donc vraiment il commence à avoir un écart entre la tête du championnat et le milieu du championnat. Donc il faudra pas laisser des points, sinon bien sûr qu'on verra Nice sur le podium peut-être en fin de saison.
Après, ce qui peut être inquiétant pour Nice, c'est la CAN qui va arriver. Tu perds des joueurs quand même comme Bouani, dans ton 11 titulaire tu perds Boga, tu perds Boudaoui et tu perds Terem Moffi qui vont partir. Et c'est Côte d'Ivoire, Algérie, Nigeria. Et Nigeria, c'est des équipes qui potentiellement peuvent aller loin lors de cette Coupe d'Afrique. Donc il faudra voir comment ils vont
Boga,
gérer.
Boga, c'est pas très sûr qu'il y aille, hein, mais bon, à suivre.
Si vous ne le prenez pas, vous faites une erreur.
Après tout dépend des choix de l'entraîneur. Et voilà,
de la chance au moins, Aubameyang, lui, il va rester, puisque.
Il est 21h16 sur mon pari FM, vous êtes au bout du foot. On va s'écouter juste un peu de pub, le sommaire, et on revient parler de la Première Ligue.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie, prise au piège. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Salie. Je me supporte même plus. Il faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 23 octobre 2023, malgré la dernière place occupée en championnat, John Textor, le dirigeant américain de l'Olympique Lyonnais, reste confiant. Est-ce une attitude jugée inquiétante ? Au bout du foot donne sa réponse. Olympique de Marseille, le transfert d'Aubameyang à l'OM, coup de maître ou flop annoncé ? Au bout du foot se prononce. Également dans Au bout du foot, nous évoquons la fulgurante montée de l'OGC Nice à la deuxième place de la Ligue 1. Le podium est-il à la portée des rouges et noirs ? Au bout du foot répond. Plongez également avec nous dans l'effervescence de la Première Ligue avec un suspense plus qu'intéressant. City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Aston Villa séparés par seulement 2 points. Qui sont vos favoris pour le titre en Première Ligue ? Nos experts se prononcent. Le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Quels sont les adversaires des clubs français ? Quelles sont vos affiches de rêve à l'occasion de cette troisième journée ? La CAN 2023 arrive à grands pas. Comment se sont comportées les équipes africaines qualifiées lors de cette trêve des matchs amicaux ? Quel bilan peut-on faire depuis Abidjan? Nous serons en direct avec Magat. Découvrez également dans Au bout du foot la suspension de pour dopage de l'Argentin Papu Gomez. Est-ce scandaleux qu'il ait fait partie de l'effectif champion du monde? Au bout du foot se prononce. La chronique, quel choix pour quel résultat? L'attente fébrile autour de l'annonce du Ballon d'Or. Messi est-il sur le point de créer la surprise? La question est posée. Décryptage, analyse, commentaires, pronostics. Bienvenue dans Au bout du foot sur Mon Paris FM, saison 1, épisode 4.
Retour plateau au bout du foot avec notre ami Philippe Carnu, avec Chakenza, avec Arthur, avec Aboubacar et ainsi que Elag. Et puis notre ami Jason Lindor est à la réalisation ce soir. Alors les amis, on va s'arrêter sur le championnat anglais, la Première Ligue. On l'a évoqué dans le sommaire. Hein, aujourd'hui, il y a une Première Ligue qui est très 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 disputée. City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Aston Villa. Qui sont vos favoris finalement, parce que tous ces clubs se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, hein. Arthur.
Moi, le grand favori, ça reste toujours City, hein. C'est l'équipe avec l'effectif le plus riche.
Un peu moins bien, non, ces temps-ci?
Bah, quand on regarde bien, ils ont fait qu'un seul faux pas vraiment contre Arsenal, mais sinon ils ont
perdu deux fois de suite aujourd'hui. Ils ont perdu deux fois de suite en Première Ligue, ça n'était plus arrivé depuis 2018. Ils ont enchaîné deux défaites.
Et ils ont perdu en coupe aussi. Ils ont perdu en coupe aussi. Non, mais c'est un City qui est moins bien. D'où le resserrement. Ouais. Hein, parce que dans une autre époque, oui, City se détache, hein, de tous ces trois autres clubs à côté. Hein. Ouais, mais là, aujourd'hui, City est en train de lutter avec Aston Villa, Tottenham.
Ils ont perdu contre Wolverhampton. Et le match d'après, ils sont partis à Arsenal. Ils ont perdu. Ils ont marqué un but en deux matchs. Tu sais, c'est vraiment pour dire. Ils ont encaissé trois buts. Voilà, ça serait une autre équipe. On aurait dit voilà. Mais pour City, vraiment, moi, comme je le disais déjà en début de saison, City sont en fin de cycle. Ils ne vont gagner ni la Champions League, ni la Première Ligue. Pour moi, je les vois.
Mais tu vois qui alors?
Première Ligue? Ah, ça peut être tout le monde. On connaît bien je voyais comme favori, je voyais Liverpool.
Oui, t'avais dit Liverpool la semaine dernière, ouais.
Comme favori, mais ça reste.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu le dis avec moins d'entrain?
Non, pas plus d'entrain. City, en tout cas, moi je l'ai dit clairement, City ne vont pas gagner. Pour moi, ça je l'ai dit et je reste là-dessus.
City qui est en dessous de ses performances.
Mon favori, c'est Liverpool. Ils sont à un point, si Tottenham gagne aujourd'hui, ils seront exactement à deux points de Tottenham, mais moi je pense que ça va très vite, quoi. Mm-hmm. Moi, pour moi, en tout cas, l'équipe que je vois vraiment complète, en sachant que Liverpool joue l'Europa League, qui voilà, si ça arrive pas en demi-finale et en finale, avant ça, c'est les petites équipes contre qui ils vont jouer, et même l'équipe B peut faire l'affaire parce qu'ils ont un banc, une bonne rotation. Du coup, c'est pour ça que moi je dis Liverpool. Je pense que Liverpool vont gagner la Première Ligue. C'est mon favori et on verra bien.
Chakenza, ton favori?
Bon, mon favori.
Liverpool, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, City.
Bon, cette saison, vraiment, je pense que Mikel Arteta, ce qui lui a manqué l'année dernière, je pense qu'il va le régler pour aller chercher le titre.
T'as vu le match face à Chelsea avant-hier, là?
Bon, oui, j'ai vu, mais par moment, on ne peut pas juger une équipe sur un match et tout, par moment, parce que là, on a vu un City vraiment en 2018-2019 qui allait gagner le titre. Juste grâce à un faux pas de Liverpool. Donc par moment, ça arrivait un City vraiment qui était en dessous de Liverpool.
Donc toi, tu mises pour Arsenal?
Bon, sincèrement, je vois Arsenal vraiment aller gagner
le titre. C'est le cœur ou c'est l'objectivité?
Bon, oui, je pense que oui, Mikel Arteta depuis deux ans. Mais, moi, je pense que Mikel Arteta depuis deux ans, il a bien un travail vraiment, il fait un bon travail.
Non, mais il travaille bien, ça se voit. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est
sûr,
clair.
L'année dernière, il perd vraiment le titre, juste par inexpérience et tout ça.
Bon, on a l'impression qu'Arsenal. Toujours depuis Wenger, ça reste toujours l'équipe pour qui on a beaucoup d'affection. Et puis à la fin, ça dégringole. J'ai l'impression qu'à chaque fois,
à un moment donné, ça dégringole.
Il n'y a pas de vrai patron
dans
cette équipe.
Mikel Arteta, il est là pour ça. Il est là vraiment pour régulariser les choses. Il est là vraiment. Je pense qu'il faudra qu'on lui laisse du temps comme Klopp. À un moment donné, Liverpool, vraiment, ils étaient à la traîne. Mais là, vraiment, ça va. Avec Klopp, il a pu redresser le club. Il a pu mettre la barre haute. Liverpool, peu près de 20 ans après ou 30 ans après, ils ont pu gagner un titre de Première Ligue. Donc pourquoi pas Arsenal, vraiment le dernier titre qui date depuis l'époque des Invincibles. Pourquoi pas vraiment.
Mon cher Philippe.
Ouais, moi je suis pas inquiet. Je pense que Manchester City va se refaire une santé. Voilà, on est au mois d'octobre.
Bon.
Ah, toi, tu crois en City?
Oui, je pense qu'ils vont se refaire une santé. Liverpool sera pas loin. Arsenal, je suis d'accord, c'est toujours une équipe qu'on attend. Et puis, ils ont toujours un petit coup de mou. Quand on regarde Arsenal, ils n'ont pas gagné grand-chose depuis quelques années. Je pense que oui, ça jouera entre City et Liverpool. Mais moi, je reste confiant. Je pense que City sera beaucoup mieux dans quelques mois.
Abou, est-ce que tu crois pas que City a un joueur qui manque vraiment, en l'occurrence De Bruyne?
Ouais, mais de là, du temps qu'ils reviennent, ils vont gérer ça tranquillement. Moi, je pense qu'il est pour Manchester City. Je pense que ça va finir champion tranquillement. Et juste derrière eux, je pense qu'il y aura Tottenham qui finira pour moi deuxième.
Y aura, moi, je pense comme là, Liverpool, Arsenal seront pas loin de City. Mais,
tu crois pas en Tottenham non,
je pense pas qu'ils ont l'effectif assez profond pour, moi, je le vois en deux, pour durer vraiment.
Personne ne croit en Tottenham ici.
Moi, j'y crois.
Et si c'était l'année de Tottenham, justement?
Moi, j'y crois.
Vraiment, pour le
Harry
titre
Kane, il est parti.
Pour
en
le
fait,
titre.
C'est comme un couple, fallait se séparer. Les deux, ils vont se retrouver heureux chacun de leur côté. Donc, chacun prend un trophée. On se dit, voilà.
Ouais, mais
problème,
Tottenham,
le
tu
problème,
seras toujours
c'est
mieux
qu'on
avec Harry Kane que sans Harry Kane.
Ensemble, ça va être génial. Après,
Tottenham sans Harry Kane, c'est
génial. À la CAN, ils vont perdre leur doublette.
Ils
ne
vont pas être Bissouma.
Qui, pareil, ils vont aller loin, sûrement, dans cette CAN. Surtout, Yves Bissouma qui va sûrement la soulever.
On espère.
Donc Tottenham faudra faire attention à ce moment-là. Liverpool faudra faire attention quand ils vont perdre Salah aussi. L'Egypte, on sait que c'est une équipe qui est toujours pas allée loin. Faudra faire attention.
Ils ont toujours réussi à faire sans Salah, sans Mané à la CAN. C'est une équipe qui a vraiment une bonne qualité d'effectif.
Là, ils ont Gakpo, Gorota,
Nunes.
Nunes qui revient en forme. Nunes, et ils ont
Luis Diaz. Ils ont pas mal de joueurs vraiment.
Je pense que Liverpool, en tout cas, je m'en fais pas. Et c'est bien pour ça que je dis, je pense que Liverpool... Ouais.
Après, est-ce que ça s'équilibre pas, tout ça aussi, les joueurs qui vont à la CAN, tout ça? Peut-être City...
Ouais, après City, il n'y a personne qui
va. À part City, vraiment, où il n'y a pas vraiment un effectif...
Même
qui...
à Arsenal, j'ai
pas ouais, Arsenal, il y a que Thomas Partey.
Non, je dis ça, il y a Naples.
Il y a Partey, il y a Thomas Partey qui part à la CAN.
Ouais, il n'y a que lui, non?
En PL, c'est assez bien un équilibre. Leur effectif, il y a assez de.
Et puis en général, les clubs anglais ont un banc assez étoffé quand même. Hein, comparativement à la Ligue 1.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand Arthur disait c'était juste avant un match de Ligue des Champions, c'est parce que généralement, quand il y a un match de Ligue des Champions, t'as pas le temps de faire tourner et les joueurs qui viennent jouer, ils pensent déjà au match de la Ligue des Champions et ils sont pas prêts, il n'y a pas de vrai turnover. Ouais, du coup,
en première ligue, le banc, c'est tous des internationaux. Hein.
Exactement.
Là, on regarde les absences de Tottenham contre Liverpool quand ils avaient joué, il n'y avait pas Lo Celso, Brian Juil, Perisic, Ryan Sessegnon. C'est incroyable.
Ouais. Merci les amis. On va aller dans quelques minutes du côté de la Côte d'Ivoire retrouver notre ami Magat. Mon cher Jason, on peut transiter, s'il te plaît. On va bouleverser un peu le conducteur. On va passer justement par l'hymne de la CAN et puis on va juste enchaîner derrière pour retrouver l'ami Magat depuis Abidjan. En fond sonore, l'hymne de la CAN, justement, histoire de vous dire que la CAN arrive dès janvier sur les ondes de Montparis FM avec tous nos chroniqueurs, Ella, Diabou, Arthur, Arthur aussi t'es là avec nous, n'est-ce pas? Chekenza, Philippe, toute la team de Montparis Sport et de Montparis FM et aussi de Bout du Foot. On a du mal à joindre notre ami Magad depuis Abidjan, on va malgré tout continuer au Bout du Foot pour enchaîner cette fois-ci avec... La Ligue des Champions justement, avec des clubs français qui sont engagés en Ligue des Champions. Quels sont les adversaires des clubs français en Ligue des Champions? Quelle est votre affiche favorite? On va disséquer tout ça avec notre ami Philippe Carnu. Philippe Carnu, moi je commence par toi parce que la dernière fois, tu avais fait meilleur pronostic possible, à savoir la victoire de Lens face à Arsenal et c'est tombé pile poil. Hein. Non seulement tu as donné le bon score, mais tu avais dit effectivement que Lens gagnerait. Et cette fois-ci, je commence par toi pour que tu nous donnes les bons pronostics justement au niveau. Ah ben oui, parce que elle t'attend.
Bon, écoute, on a Lens Eindhoven 3-1.
On a Lens PSV Eindhoven.
3-1 pour Lens.
3-1 pour Lens.
Et 2-1 pour le PSG de Bonmillanger.
Waouh! Attends. Voilà. On va noter ça. Parce que notre devin était aujourd'hui avec nous. On va noter ça. 3 buts pour Lens et 1 but pour le PSV Eindhoven. Et au niveau donc de Paris Saint-Germain, AC Milan.
2-1.
A noter que les deux clubs français jouent à la maison.
Oui.
2-1 pour le PSG. Selon Philippe Carnu. Chekenza, ton pronostic.
PSG Milan.
Oui. AC Milan.
Ouais, moi je dirais 2-0 pour le PSG. Du côté des Lens et Unod.
2-0 pour le PSG.
Ouais, du côté des Lens et Unod, je pense que ça sera un peu plus équilibré. Mais
non, Lens... c'est PSV Eindhoven plutôt.
Ouais, Lens PSV Eindhoven, Lens va gagner 2-1.
Ah ouais.
Ils sont derniers.
À noter que Lens est quand même 15e de Ligue 1, si j'ai bonne mémoire. Ouais, donc attention, les amis. Hein. Faut pas que la victoire face à Arsenal nous fasse penser le contraire. Arthur.
Moi, je pense aussi à une petite victoire du PSG contre Milan. Milan, c'est une équipe qui a du mal à marquer.
J'avoue, j'ai pas regardé le Milan assez ces dernières semaines.
Ils ont perdu le dernier match.
Non, mais on peut perdre, c'est sûr, mais dans le contenu.
Dans le contenu, c'est moyen. Juste avant, ils avaient joué contre l'Inter il y a pas longtemps. C'était moyen.
Pareil.
Ils ont pris
ils font pas une grosse saison cette année.
Moi, Milan ne m'a jamais fait peur. Hein. J'ai toujours dit.
Est-ce qu'ils ont des joueurs pour faire une grosse saison?
Ça dépend ce que tu appelles une grosse saison.
Ouais.
Sortir des poules, être au moins sur le podium du championnat italien.
Ça, je pense pas sortir des poules. Moi, je pense je les vois relégués en Ligue Europa.
Ah, carrément. Donc tu vois Newcastle, PSG sortir.
Bien sûr que, mais je l'ai dit depuis le début, avant les matchs.
Attends, c'est pas encore fait.
Même si Newcastle avait dominé un petit peu le Milan sur le match. Mais moi aussi, je suis comme Eladj, Newcastle, c'est un autre niveau. Hein. Franchement, ce qu'ils ont fait au PSG, c'était incroyable. Hein.
Mais est-ce que le PSG, justement, les avait pas pris de haut? C'est ça, le truc.
Moi, je pense
que
c'est la compo. Tu pars avec 4 attaquants alors que tu joues à 3 attaquants. Il n'y a pas d'équilibre au milieu de terrain. Tu joues sans Vitinha, qui est l'un des joueurs les plus importants dans le milieu avec Ugarte. Et voilà, il a voulu faire plaisir aux 4 offensifs pour pas en mettre un sur le banc.
Pour pas choisir.
Voilà, exactement.
Non, mais au-delà de faire plaisir, est-ce que c'était pas une forme d'intimidation aussi de l'adversaire? Moi, je pensais plus à ça.
T'intimides personne en mettant Kolo Muani 10 milieu de terrain. T'intimides personne.
Ouais, Mbappé, c'est Mbappé qui a joué 10 à un moment.
Et finalement, ça a changé entre eux. Ils se marchaient les uns sur les autres. C'est les joueurs qui ont
besoin d'espace. Non, mais c'est vrai qu'on parle après coup, mais il réussit son coup, il fait 3-1 sur place là-bas. À Saint-Denis Park,
il aurait jamais pu faire un coup comme ça. Jamais. Au mieux, ils sont déjà, même s'il aurait fait une bonne compo, je pense un match nul au mieux. Moi, je pense, hein, parce que Newcastle,
c'est pas une équipe sexy, mais c'est une très forte équipe.
C'est très forte équipe. Intensité au max. Ils jouent
top
joueurs.
Il y a pas
un seul joueur qui est au-dessus du lot dans le sens où
ça joue en équipe.
On aurait pu dire Isaac qui est un peu la pépite, mais
T'as beaucoup de qualité.
La qualité partout et de l'intensité. Oui. Et les uns jouent pour les autres. C'est comme ça que ça se passe. Et je voulais rebondir sur le PSG avec les Ultras qui ont fait un communiqué, je cite. Nous sommes à 2 jours de la confrontation en LDC face au Milan. Confrontation sur le terrain où notre équipe se doit de relever la tête après la débâcle de Newcastle. Et pour cela, nous faisons confiance à notre joueur et nous savons qu'ils seront à la hauteur de l'événement.
confrontation à notre niveau en tribune avec la réception d'une des tifoseria très importante de la scène ultra italienne, celle du Milan AC. Si nous sommes exigeants avec nos joueurs, nous devons l'être avant tout avec nous-mêmes. Il ne serait pas tolérable de ne pas se donner à 10 000% pour ce match. Nous devons tout donner pour faire rayonner notre ville et faire perdurer la ferveur qui anime actuellement notre tribune. Nous voulons faire de cette rencontre une référence en termes d'ambiance dans l'histoire du virage d'Auteuil. Nous sommes les ultras, de là la plus belle ville du monde, et nous devons être à la hauteur de l'enjeu et de l'adversaire. C'est pour cela que nous vous invitons à rentrer en virage dès l'ouverture des portes avec une putain d'énergie et le désir profond de tout déchirer en tribune. Allez Paris.
Que nous vaut l'honneur de cette lecture ?
C'est l'honneur de cette lecture, c'est pour reprendre ce que les ultras disaient, déjà pour commencer. Mais
qu'ils aillent supporter leur club en Ligue des Champions, je veux dire...
Oui, non, mais un message fort. Je pense qu'ils voulaient faire passer un message fort en vue de ce qui s'était passé déjà à Newcastle. Ouais. Et je pense que là, le PSG eux-mêmes ressentent ce qui. Parce que malgré.
Ils en ont besoin.
Voilà, et malgré. Ils en ont besoin de.
Mais ça, c'est pas foutre plus de pression aux joueurs.
Non,
ça.
Je pense pas. Moi, malgré cette grosse débâcle, ils ne les ont pas sifflés. Contrairement à l'année dernière où à chaque fois ils ne les ont pas sifflés, ils ont continué à les supporter. Le match d'après au Parc des Princes, ils les ont supportés. Voilà, ils ont perdu.
Mais
ils
le problème, ce n'était pas l'état d'esprit, c'était vraiment tactiquement que l'entraîneur a jeté
c'est
le match.
Ce qu'ils ont relevé. C'est ce qu'ils ont relevé. Et
moi, je trouve en tout cas que tu as bien fait de lire ce communiqué. Philippe, il est prévenu, il sait qu'il faudra rentrer avec une putain d'énergie mercredi.
Il faudra rentrer à 7h.
C'est la moindre des choses.
Hein. Ah
bah donc, tu es en train de dire que Philippe est PSG.
Je suis en train de dire que Philippe est un ultra du PSG. Qui sait qu'il devra rentrer avec une putain d'énergie.
Et le truc, c'est que Philippe, il est tombé là-dedans. Il a dit c'est la moindre des choses.
Moi, je suis journaliste. Bah oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
Dans un match de Coupe d'Europe, ça me paraît.
Ça
coûte plus au cul.
Finalement, ça m'a donné envie de.
Moi aussi, ça. Voilà.
Voilà.
Ah, toi aussi ?
Ça m'a donné envie.
Ouais, tu vois pas, ils étaient.
Ah, pour tous les clubs. Après, je veux donner mon avis sur les matchs à venir. Je pense que le PSG vont gagner 3-1. Et je pense que Marseille vont gagner contre le PSV. Ah non, excusez-moi.
Lens.
Oui, c'est Lens. Marseille, ils sont pas en Ligue des Champions. Ah. Le PSV, Eindhoven, Lens. Et je pense que je verrai bien un match nul.
C'est pas sportif.
Je connais meilleur acteur, il a dit.
Je verrai bien. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça arrive. Quand même. Voilà, du coup, je verrais bien 2-2 entre Lens et PSV Eindhoven.
Donc, voilà. Tu te moquais du vainqueur, du seul vainqueur de la Ligue des Champions en tant que club
c'est
français.
C'est une fable, je n'étais même pas né quand ils ont gagné la Ligue des
Mon
Champions.
Mon cher Abou,
c'est une fable, Marseille, depuis que
ton pronostic.
Marseille est une
c'est
fable.
Légende. Ouais,
c'est une légende.
Personne n'a vu.
Voilà, personne n'a vu. On a vu le 3-0 contre l'Atlético de Madrid en Ligue Europa. Moi, c'est ce que je me souviens. Moi, c'est ce que j'ai vu.
Abou, ton pronostic, Lens PSV Eindhoven.
Moi, Lens PSV Eindhoven, je vois une petite victoire du PSV 2-1.
Ah, quand même.
Moi, de toute façon, j'annonce Lens perdant. Depuis, je les annonce perdants, ils gagnent. Donc, tant mieux.
Qui continue.
Ouais, je porte bonheur à nos amis lensois.
Ils nous ont bien accueillis quand même lundi dernier. Hein, donc, fais pas
oui,
ça.
Oui, très, 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 très joli stade avec de très, très bonnes frites. Franchement, merci à eux.
Chez Momo.
Chez Momo.
C'était chez Momo.
Bon, fais coucou à Momo d'ailleurs. Là. Momo, on te fait coucou. À l'occasion du match amical Cameroun-Sénégal lundi dernier.
Mais ouais, je les vois perdre quand même dans ce match-là. Je trouve qu'en fait, Arsenal, tout le monde les voyait perdre. Et ils nous ont retourné, ils ont gagné. Et je trouve que le PSV, c'est un peu équivalent à Lens. C'est deux équipes qui peuvent se regarder droit dans les yeux. Et je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'ils prennent le match en mode on l'a fait contre Arsenal. Là, j'espère que non. Et je pense que Eze, il leur dira de prendre le match au sérieux. Mais je les vois perdre 2-1 contre le PSV. En plus, les clubs français, ils aiment bien nous faire ça un peu. Ah, ils ont battu Arsenal et derrière il y a une chute. Et pour PSG Newcastle, moi je vois un petit PSG Newcastle, PSG Milan, pardon, je vois un petit un partout entre les deux formations.
Ah ouais, quand même.
Ouais, un petit un partout, tranquillou.
Ça ferait pas les affaires du PSG. Hein.
Vraiment. Non,
après, on sait bien que Abou ne donne pas les bons pronos.
Pourquoi la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai dit que Newcastle allait gagner, ils ont gagné. Donc Abou ne donne pas les bons pronos. Mais pour l'instant, ça va quand même.
C'est vrai, les amis, hein, c'est vrai qu'on est chauvin, mais il y a d'autres affiches. Hein, demain déjà, il y a un certain Galatasaray Bayern. Ça vous dit ça ou pas?
Oui, c'est assez surprenant de Galatasaray.
Les amis, ça peut être chaud bouillant quand même.
Ça peut être chaud bouillant, mais moi, le seul pépin côté Galatasaray, ils ont perdu Mario Icardi sur blessure.
qui compte énormément, mmh, puisque le gars il est à peu près.
Non, mais moi c'est le genre de match que j'aime regarder avec détachement, tu vois. Il y a la ferveur à Galatasaray, le Bayern non plus, c'est pas n'importe qui. Ça peut
le deuxième
être,
homme.
Ça peut
le
être étincelant, homme, ouais, effectivement. On a également Inter Milan contre Salzbourg. Ouais, non, bof.
Bof.
Mais eux, s'ils disent bof, hein, Lens à Eindhoven, ils disent bof aussi.
Ouais, mais
et Braga contre le Real.
Ouais, bof.
Non.
Le Real.
Bah oui.
Ouais, bon,
le Real tranquille.
Il n'y a pas de match excitant.
Union Berlin contre Naples.
Ouais, non.
Pourquoi
ça,
pas
ça peut être pas mal. Mais Union Berlin sont dans le
mais
dur.
Mais c'est pas des affiches.
Osimhen est blessé, non, c'est ça?
Oui, il est blessé. Mais c'est possible Osimhen qu'il soit de retour.
Je cours pas chez moi pour regarder ces matchs. Je m'essouffle pas dans les escaliers pour ça. Après.
Non, vraiment, c'est des matchs pas mal.
Ouais, c'est sympa, mais c'est pas.
Ça ressemble un peu à des matchs Europa League, non? Certains.
Ouais,
on regarde ce qui arrive, Benfica, Real Sociedad.
Ouais. Ça fait pareil, ça va être un joli match, ouais, deux belles équipes.
Non, c'est des équipes.
Ça fait,
non,
ça fait un peu Europa League.
Contre, Benfica, non, tu peux pas dire que ça fait Europa League, je suis désolé.
Et non,
mais moi, de ce que j'ai vu,
elle a dit franchement,
ça joue bien, elle a dit. Il faut des stars.
Si t'es pas du bled, si t'es pas dans des deux bleds, franchement, tu regardes pas.
En tout cas, je le conseille à nos auditeurs et auditrices, ça sera un bon match.
Non, mais t'as FC Séville Arsenal. Pour moi, c'est le match de la journée.
Ouais. Après, il y a mercredi. Mercredi, on a Barcelone contre Donetsk.
Ouais, pareil. Ça,
mais après, t'as que des matchs assez...
Pas si tranquille que ça. Le Barça, c'est pas terrible en ce moment.
C'est pas terrible.
Ouais, mais je pense que là, ils vont...
Il y a Dortmund-Newcastle qui serait un bon match aussi. Dortmund-Newcastle.
Tu auras combien d'écrans
ça
cette fois-ci?
Pas mal, même si
il y a beaucoup de matchs là. Là. Tu auras combien d'écrans là?
Ça existe les multi-zones, tu sais pas.
Ah, tu regardes plutôt les multi-zones?
Non, il y a des fois.
Je comprends.
Il y a les multi.
Ah, il regarde pas les matchs.
Pour son nombre de matchs, il y a les multi. Mais bien évidemment.
Ah, ça, c'est nous révéler ses secrets quand Stéphane n'est pas là.
Non, mais bien évidemment, je serai du côté de Lens et l'autre jour, je serai bien du côté du PSG, bien évidemment.
Feyenoord, Laziodrome.
Ouais, c'est un match intéressant.
Et si t'écoutes Arthur, lui
non,
regarde
mais
tout.
C'est sympa.
C'est
des matchs sympas.
Tu regardes par curiosité. Mais
Arthur, après... il a 8 écrans.
Non, t'avais une sport, multiplex.
C'est ça, mais ils ne connaissent pas.
Et puis on a Newcastle. Ah tiens, Newcastle Borussia, ça nous intéresse.
Ouais, ça c'est intéressant.
Ouais, même si je pense que Newcastle, ils vont se les faire.
Ah ouais,
très faible Dortmund.
Dortmund c'est faible.
Ouais, c'est le plus faible de la poule.
Plus faible de la poule.
Et le troisième plus faible, c'est Milan, clairement. Et de toute
mais
façon,
il faudra pas se prendre.
Non,
dans
moi
le
je dirais pas Milan, je dirais pas que le troisième le plus faible. Là,
c'est
ça.
C'est
là vraiment.
Attends, chez Kenza, c'est qui?
Là vraiment, moi.
Chez Kenza, c'est qui?
Moi, je mettrais Newcastle premier. Et la deuxième place va se jouer entre le PSG et le Milan. Mais je pourrais pas dire que le PSG sera vainqueur.
Bah, regarde le match mercredi. C'est mercredi ou mardi? Regarde.
Non, j'ai mis un pronostic. J'ai mis un pronostic, le PSG vainqueur. Mais n'oublie pas qu'il y aura le match retour à San Siro. La dernière fois, je parlais de Saint-James Park. Abou, il avait dit non. Et tout ça, le deuxième homme, ça remporte rien. Non, tu avais dit que le deuxième homme, ça remporte rien. Mais
c'est vrai.
Mais l'atmosphère à Saint-James Park, c'était invivable.
Mais c'est pas ça qui a fait gagner le PSG contre Newcastle.
Non, mais c'était invivable.
Ouais, mais toi, chacun ça, à chaque fois, tu dis ça, André, tu vas là-bas.
Non.
Est-ce que tu vas là-bas?
Le truc, c'est pas que je vais là-bas, mais c'est un plus.
Mais là, on parle de Mbappé. Il a pas la pression.
Mais qu'on le dise ou pas, mais déjà, lui, il a. Lui,
c'est qui lui?
Et tout à l'heure, il a dit vraiment, il a lu un post concernant vraiment les ultras du PSG qui ont parlé qu'ils allaient se mettre à 10 000%, parce qu'ils savent aussi, que c'est très important d'avoir une ambiance et tout. Mais ça, c'est très, très important de chambrer.
Bon, les amis, on avance. On a également Antwerp contre FC Porto. Ouais. Royal Antwerp.
Non, ça c'est match lambda.
C'est Belgique, club Belgique.
C'est un Belge.
Match lambda.
Ouais. Vous n'avez pas de respect, les amis.
Puisqu'on est en direct.
Leipzig contre Belgrade.
Puisqu'on est en direct, je voulais revenir aussi sur la première ligue. Il y a Tottenham qui vient d'ouvrir le score, encore à l'aide de Heung-Min Son. Du coup, ils viennent de prendre la tête de la première ligue.
Young Boys contre City.
City, tranquillement.
Tranquillement. Il est tellement tranquille qu'il parle même plus devant le micro à bouille. Il est avaché dans son fauteuil.
Non, mais là, tu dois donner des matchs qui m'ont endormi.
Mais Celtic, ouais. Et puis on finit. Non, mais il faut donner tout. Non, Celtic face à l'Atlético Madrid.
Ouais, l'Atlético, vraiment. L'Atlético, ça
Arthur,
va.
Il va regarder. Il y a Griezmann là.
Il y a Griezmann
là-dedans.
Ah oui. Légende. Mais même en équipe de France, hein.
Oui, c'est très fort.
Bah oui.
Allez, les amis, on n'a pas pu avoir notre ami Magat depuis Abidjan. On va cette fois-ci parler du Ballon d'Or. Hein. La surprise, Messi, point d'interrogation. Ça arrive le 30, mon cher Philippe,
lundi,
le
30
en direct dans Mon Paris Sport et dans Au bout du foot, ouais. On va en parler. Et justement, j'espère que notre ami Stéphane Desenclos sera présent ce soir-là, le 30, parce que ça va être chaud bouillant.
Au théâtre de Châtelet.
Il y a quoi au théâtre? Ah
là, si la direction... Je sais que la direction nous écoute en direct là, Malik, actuellement. Je...
Bah écoute, c'est toi le red chef, hein. Fais la demande. Et, que, et qu'on soit invité.
C'est trop tard maintenant.
Non, non, c'est pas trop tard. T'inquiète pas. On a du réseau. On a du réseau. On a du réseau. On a du réseau.
Pas mal, Arthur. On va se cacher.
Quand Arthur vient te dire que tout le vestiaire lyonnais est à dos là, mais grosso à dos, c'est pour te dire qu'on a du réseau. T'inquiète pas. On a les yeux, les oreilles partout. Les amis, Ballon d'Or, la surprise Messi.
Mauvaise surprise. Mauvaise surprise, puisqu'on attend quelqu'un d'autre qui fait une grande saison.
J'ai discuté en off, on m'a dit ouais, mais Malik, il a gagné le dernier championnat du monde. Oui.
Ah.
Donc est-ce que ça suffit?
Ben non, ça suffit pas.
Arthur,
il est champion du monde quand même, Arthur.
Oh, peut-être, mais.
Non, c'est pas peut-être. Mais...
Arthur, il a pas l'air content.
Arthur, soyons objectifs. Messi est quand même champion du monde.
Oui, mais à chaque fois.
Est-ce que ce sera choquant de voir Messi remporter
mais pour moi, c'est
son énième ballon
d'or?
C'est
choquant. Pour moi, c'est choquant. Même plus.
Attends, t'inquiète pas, on a le temps. Oui.
Pour moi, ça doit récompenser le meilleur joueur dans l'équipe qui a gagné, qui a un palmarès sur la saison. C'est pas de décider qui est le meilleur joueur, puisque le meilleur joueur, on est tous unanimes pour dire que c'est Lionel Messi, le meilleur joueur des 10-15 dernières saisons. Mais sur
non,
le meilleur
pas
joueur.
Unanime. Tu peux le dire, mais on n'est pas unanime.
Ah, toi, t'es fan de CR7.
Non, je t'ai pas dit que j'étais fan
de CR7. Non, laisse-le dérouler, laisse-le dérouler. Oui.
D'accord. Donc pour moi, on doit récompenser le joueur qui a fait gagner son équipe. Et pour moi, ça doit être un joueur de City, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions. Et le championnat anglais. Donc voilà, mais à chaque fois qu'on a eu l'occasion de récompenser, par exemple en 2010, un Espagnol ou Schneider, on l'a pas fait. Pour récompenser, par exemple, Ribéry qui avait tout gagné avec le Bayern en 2013, on l'a pas fait. En 2018, voilà, exactement. En 2018,
qui avait gagné la Coupe du Monde d'ailleurs.
Voilà.
Qui avait marqué en finale de Coupe du Monde
pour
aussi.
Iniesta,
qui a donné la victoire.
Ou Schneider, il avait fait finale, championnat, Ligue des Champions et championnat italien. Donc voilà, mais pour moi c'est une mascarade, c'est marketing.
Bien sûr.
C'est Kenza.
Ouais, il a tout dit déjà, parce que moi je pense que les lois, je sais pas, ils les font comment, et je sais pas si tout a arrangé pour que Messi il remporte le max de Ballon d'Or, mais à un moment donné, je pense que oui, c'est une mascarade, comme il a dit, en gros, vraiment c'est ça. Parce qu'en 2010, Iniesta, il était parti pour gagner le Ballon d'Or, ils lui ont pas donné. Je comprends pas, et en 2023, on nous dit que Messi, il a remporté la Coupe du Monde, il a fait la meilleure Coupe du Monde, mais... Non.
En 2018, excuse-moi, chez Kenza, en 2018, la France ont gagné la Coupe du Monde. Le vainqueur de Ballon d'Or n'a pas été là-bas. Je comprends pas. Varane avait gagné la Ligue des Champions.
Mais pas le passé.
Les champions plus la
pas
Coupe
le
du
passé.
Monde, ils n'ont pas donné le Ballon
pas
d'Or.
Pas le passé pour
pourtant,
gagner le Ballon d'Or.
Excuse-moi, mais pourtant, à ce moment-là, en 2018, on avait Mbappé aussi qui faisait pas
T'avais Salah, Mané aussi qui cartonnait tout à Liverpool et tu leur as pas donné.
Bien sûr, non, mais si on part du principe où la Coupe du Monde.
Il y a même Courtois qui aurait pu se positionner aussi une année.
Oui, mais si on part du principe où la Coupe du Monde prime, oui. Modric ne l'a pas gagné. Pourquoi Mbappé ne la prendrait pas cette année? Mbappé a fait une plus grande saison que Messi.
Mais parce que entre
Mbappé
temps,
a fait,
parce
il,
que,
a, il a fait que... la finale, il n'a pas gagné, mais il a fait la finale. Modric a fait la finale. On lui a donné le Ballon d'Or. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Mais il a gagné la Ligue des Champions la même année.
Ouais, mais Philippe, justement,
mais
j'ai une question.
C'est un peu ça parce que
comme Varane.
J'ai une question. J'ai une question pour toi, Philippe. Est-ce que vous pensez pas, les amis, que parfois on pourrait même faire l'impasse sur le Ballon d'Or? Parce que moi, cette année, franchement, je sais pas.
Ben, les deux derniers ballons d'or de Messi,
tu me dis
pas.
Tu donnes ça à personne, moi ça me choque pas.
Les deux derniers ballons d'or de Messi, le méritent pas.
Non, moi ça me choquerait.
Alors,
je suis désolé.
Le ballon d'or, il faut savoir qu'il y a quand même des journalistes qui votent. Et toutes les années où les journalistes ont voté, toutes les années de Coupe du Monde, ce sont des joueurs qui ont été déterminants dans la Coupe du Monde, qui ont gagné donc le ballon d'or. Sauf deux années, 2010 et 2014. Pourquoi? Parce que ça avait changé. Ce n'étaient plus des journalistes qui votaient. C'était des gens du métier. C'était le ballon d'or FIFA, ça s'appelait. Donc voilà. Ben, bon, alors on pourrait
Adidas.
Ouais, on peut être pour, on peut être contre, mais malheureusement, enfin, la Coupe du Monde a toujours primé sur le reste. Zidane en 98, donc Ronaldo le Brésilien en 2002, Cannavaro l'Italien en 2006. Alors effectivement, il y a une petite exception, Modric.
Il
votait plus avec les journalistes. Donc voilà, il y a eu que deux changements où là on pouvait contester. C'est en 2010 je crois que c'est Ronaldo qui gagne donc le Ballon d'Or.
Non, 2000, c'est Messi.
C'est Messi. 2010. Et donc 2014, c'est Ronaldo. Alors que voilà, le Portugal fait pas une grande Coupe du Monde cette année-là. Et puis en 2010, l'Argentine se fait sortir en huitième de finale par l'Allemagne. La seule différence, c'est que le vote était différent. C'était des gens de métier. Mais on a remis aussi des journalistes. Et c'est vrai que bah, quand ce sont des journalistes qui votent, je crois qu'il y a 1000 journalistes, hein, c'est ça, hein, de pays.
Mais ils sont choisis comment?
Il y en a qu'un seul.
Les critères, eh
ben,
le plus important.
Oui, bah, les critères, c'est la Coupe du Monde. C'est l'épreuve numéro un. On serait dans une année impair. Le Ballon d'Or, c'était Haaland. Parce qu'il aurait gagné Manchester City, il aurait fait le triplé. Là, c'est une. Voilà. Donc, il y aura Messi, bah moi, Haaland,
je sais pas qui fait
Mbappé.
Ces critères-là, mais ces critères sont mal faits.
Hein. Franchement, c'est parce la que Coupe là, on a toujours privilégié.
Oui, mais en vue. Oui.
Ah bon, zéro suspense pour le Ballon d'Or, hein, finalement.
Je pense qu'on devrait le changer.
Non, avec ce que vient de nous dire Philippe, il y a quasiment zéro suspense.
Non, il va gagner.
Le nom a déjà été sorti, d'ailleurs.
C'est Lionel Messi.
Il a eu la primeur de savoir qui va l'emporter. Ce sera Messi cette année. Pas de suspense. Après, les critères du Ballon d'Or, c'est quand même performance individuelle, pardon, le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Ah. Pour moi, c'est Haaland devant.
Si on dit attends, tu peux reprendre ça ?
Il a pas fait la Coupe du Monde.
Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Ça, c'est le critère numéro un. Deuxième critère, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison.
Ouais.
Là encore, Haaland a plus de trophées.
On n'a pas parlé de Coupe du Monde. Là,
et le trois, en tout cas, dans les... Non. Et le troisième critère, la classe du joueur et son sens du verbe.
Enfin, c'est l'épreuve
numéro
un. À aucun
moment on parle des Coupes du Monde.
Mais c'est l'épreuve
Philippe,
numéro
maintenant, faut savoir que si les journalistes se disent entre eux, gars, maintenant venons, on met
c'est
quelqu'un.
C'est l'épreuve majeure quand même.
C'est l'épreuve majeure.
Je dis pas que c'est pas. Donc la Ligue des Champions.
Ça effacerait
une épreuve.
Ce que je dis, ce qui est triste,
on devrait changer cette loi-là. Excuse-moi Malik, je vais jusqu'au bout. Parce que Lionel Messi, cette saison, on voit avec le PSG, il n'a rien foutu. Il n'a pas touché une bille. Tu ne peux pas jouer une compétition, même si c'est la Coupe du Monde.
Ouais.
Même si c'est la Coupe du Monde, tu ne peux pas jouer pendant un mois et demi et tu gagnes la Coupe sur 5 pénalties. Parce que voilà, 5 ou 6 pénalties.
Il est déterminant, c'est la Coupe du Monde.
Il n'y a pas de problème. Non, mais sur 5 ou 6 pénalties, je ne pense pas que sur ça, on peut donner le Ballon d'Or à quelqu'un comparé à Erling Haaland qui a explosé tous les records. Qui a gagné le triplé avec une équipe qui n'avait jamais gagné la Champions League. Je ne vois même pas où est-ce qu'on peut les comparer.
Il n'est pas sexy visiblement à bout.
Et c'est, il y a 100 journalistes qui votent seulement.
Ouais, c'est
combien de journalistes?
100 journalistes.
Oui, 100, c'est pas mille.
C'est le classement FIFA.
Attendez pas tous ensemble. Oui,
c'est le classement FIFA de la première à la centième place, les 100, voilà. Les 100 premiers pays classés.
Ouais, voilà.
On prend un journaliste par pays et on le.
Oui, mais il y a aussi les sélectionneurs et les capitaines.
Et les capitaines qui votent. Ils votent plus,
plus maintenant. Les gens
ça, c'était l'ancienne formule, ça. C'était l'ancienne formule,
c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que cette année-là, on a
changé.
Oui, jusqu'en 2009, je crois que ça a été des journalistes, uniquement des journalistes.
Exactement.
Après, entre 2009 et 2016, je crois qu'il y a eu des gens de métier. Là, il y a eu un petit décalage, que ce n'était pas forcément quelqu'un qui brillait dans une Coupe du Monde qui gagnait. Hein, Ronaldo, et puis en 2014, et Messi en 2010. Et depuis, on a remis donc des journalistes. Et là, on est passé à 100, bien sûr.
Il faut savoir qu'ils ont supprimé le critère carrière de joueur. Avant, il y avait carrière de joueur.
Bah là,
selon
quoi,
la carrière
c'est
du
quoi,
joueur,
Messi,
on avait
qu'il a fait cette année,
le mettre.
Il a gagné la Coupe du Monde.
Messi, il n'a rien fait.
Il a gagné la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout.
Mais c'est comme quand il avait été.
Et même en Coupe du Monde, Messi n'est pas le meilleur argentin. Le meilleur argentin, c'est Di Maria.
Il est déterminant.
C'est Di Maria.
Comme en Coupe du Monde, en finale.
Il est déterminant.
Le meilleur argentin, c'est Di Maria.
Quand il avait été élu meilleur joueur.
Sans Di Maria, excellent. L'Argentine ne remporte pas la Coupe du Monde, la Coupe América.
Donc on est d'accord, les amis, aucune surprise, Messi sera Ballon d'Or lundi prochain. Tiens, dans cette même équipe argentine, Papu Gomez, mon cher Abou, accusé donc de dopage.
C'est ça, contrôlé une substance interdite en novembre 2022, alors qu'il évolue encore à Séville. Hein. Papu Gomez a été suspendu 2 ans pour dopage. Le joueur il s'est exprimé hier sur son compte Instagram. Je me suis toujours positionné, je cite, comme un fervent défenseur du sport propre et de l'esprit sportif, condamnant et rejetant catégoriquement toute forme de dopage. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais l'intention de recourir à une pratique interdite. L'infraction présumée découle de la présence de terbutaline dans mon corps à la suite de l'absorption accidentelle, involontaire et non intentionnelle
d'une
cuillère de sirop pour la toux de mon jeune fils, raconte l'ancien joueur du FC Séville. Il convient toutefois de préciser que l'usage thérapeutique de la terbutaline est autorisé pour les sportifs professionnels et qu'elle n'améliore en rien les performances sportives
dans le football. L'article 11 du Code mondial antidopage prévoit qu'une équipe ou une sélection peut perdre son titre et si et seulement si deux de ses membres au moins ont commis une violation des règles antidopage. Donc pas de risque pour l'Argentine, on n'est que à 1 sur 2. D'un point de vue plus personnel, hein, lui il risque, bah, il risque pas, il a pris 2 ans de suspension, c'est sûrement une fin de carrière.
C'est un contrôle qui a eu lieu avant la Coupe du Monde.
Exactement, c'est scandaleux puisqu'ils étaient au courant.
Il va perdre son titre de champion du monde
et
sa Ligue Europa.
Ça lui sera retiré.
Ça c'est ce qu'ils vont lui.
Mais c'est pas sûr. Ah, s'ils lui ont laissé faire la Coupe du Monde, c'est déjà bizarre.
Ouais, non, mais Abou, ouais, c'est bizarre parce qu'il a été contrôlé avant.
Je te donne ça et je t'enlève ça. Je te laisse jouer. Attends, on te fait un contrôle antidopage. T'es testé positif. On te laisse jouer la Coupe du Monde, tu la gagnes, on te laisse encore un peu de temps, et ensuite on te dit.
Mais tu l'as gagné de toute façon. Oui, voilà, mais tu l'as gagné.
Et après, derrière, on te dit, on va te retirer peut-être le truc.
Ça ressemble un peu aux athlètes, là.
Oui, mais c'est ce qu'ils font.
Aux 100 mètres, 200 mètres et tout ça, en athlétisme.
C'est ce qu'ils font.
C'est ce qui se passe souvent. C'est après coup qu'on retire des médailles, mais sauf que nous, sur le direct, on sait que X est champion, il est champion.
Dans les mémoires, on voit quoi là.
Dans les mémoires, ce qui reste, c'est ça.
Puis bon, le foot, c'est un sport collectif. Donc.
Mais il a été utile à l'équipe puisqu'il a participé, que ce soit aux entraînements et en match.
Ouais, donc, il a joué quelques matchs et voilà, il est rentré en cours de jeu, effectivement. Oui.
Donc il a participé.
Et à ce jour, il évolue où
à l'Inter ? En plus, quand il est rentré, il a fait des bonnes prestations.
Il est en Serie A à Monza, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais. Alors que le grand Maradona, lui,
il a eu du mal à trouver un club cet été.
Le grand Maradona ?
Oui, en 94.
La règle, c'est deux joueurs. Après, moi, je comprends pas que la règle, c'est deux joueurs.
La Coupe du Monde.
Donc, on a le droit à
de la Coupe du Monde.
Mais deux.
Les amis, vous êtes en aparté, là.
Ouais.
On est en émission. Oui, mon cher Abou.
Pour ça, moi, je trouve que c'est. Moi, ce qui est aberrant, c'est que un joueur, pas de souci, mais deux joueurs, on te retire ton trophée.
Mais tu trouveras jamais le deuxième joueur. Tu trouveras jamais le deuxième joueur. Ils vont pas enlever un titre à Messi, puisque c'est eux qui ont fabriqué son palmarès ces dernières saisons. Non. La Coupe du Centenaire, là, Italie-Argentine, la Copa América toutes les années ou toutes les deux saisons. Là, la Coupe du Monde avec des pénaltys à tous les matchs, c'est scandaleux.
Il a mauvaise encore. Il a mauvaise encore.
Je sais pas, ils sont pas là.
Il a toujours pas tiré la finale.
Non, mais la finale, le pénalty, il est donné. Hein, le pénalty. Non.
Merci, les amis.
La Copa revient à l'ancienne formule parce que Messi a remporté la Copa América maintenant. Donc, tu vois.
Et en Ligue Europa, Marseille va gagner ce.
À un moment donné, tout était taillé pour Messi.
Je sais que tu parles pas des petites compétitions, Malik. Des petits clubs. Tu me prises des petites compétitions. Je sais que tu me prises des petites compétitions.
On parle du foot professionnel.
Marseille gagnera. Rennes aussi, je pense. Gagnera et j'ai une grande confiance en Toulouse et Lille aussi.
Et c'est Aubameyang qui va marquer, n'est-ce pas?
Attends, merci. Deux petites secondes. T'as dit t'as une confiance en Toulouse. Tu sais contre qui Toulouse joue?
Oui, je sais.
Liverpool.
Qui joue
Liverpool.
Hey, tu penses que Toulouse?
Ça, c'est un beau match.
D'accord. Bonne soirée, mesdames et messieurs.
j'ai confiance en Toulouse. Il est où ton problème à toi là-dedans?
On verra bien.
Merci, les amis, d'avoir été présents aujourd'hui dans Au bout du foot. On va se retrouver lundi prochain pour la remise du Ballon d'Or. On va faire Mon Pari Sport avec Philippe Carnu. Et dans la foulée, on va enchaîner pour Au bout du foot. On va analyser, on va commenter, on va décrypter l'actualité footballistique comme souvent, comme tous les lundis. Jason Lindor réalisé Au bout du foot de ce soir. Merci Philippe Carnu. Chakenza, merci beaucoup. Bon retour.
Merci à vous.
Merci Arthur. Et puis merci, tu viens quand tu veux.
Invité.
Champion Abou, merci beaucoup. Eladji, bonne soirée à toi. Merci. Et puis on fait un coucou à notre ami Stéphane Desenclos. On fait un coucou aussi à Ibrahima. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain. Salut.
Au revoir.
Au bout du foot, 20h30, 22h. Malik Eudi. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudi et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur Mon Pari FM.
Mon Pari FM.